23h, 1h, confidence avec Vanessa sur Beurre FM.
Ah j'ai hésité, hein, je vous l'assure, vous avez entendu. Hein. Je sais plus quelle heure il est. Ben oui, il est bien 23h, voilà, exactement. Donc il est bien 23h, chers amis, et bien voilà, ça y est, on y est, on en a parlé. On l'a attendu, hein, Sidna Ramadan, il est là. Le Ramadan est arrivé, le mois de jeûne béni. Eh bien, je vous souhaite, j'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui, que ça n'a pas été trop difficile pour un premier jour. Premier jour, c'est un peu compliqué. Surtout la soif, je pense. Parce que bon, manger à 19h encore, ça va. Hein. Voilà, je tousse. Eh bien, oui, j'espère qu'il n'a pas été trop dur aujourd'hui, ce premier jour. En tous les cas, je renouvelle mes souhaits pour le mois de Ramadan, que je vous souhaite, en tous les cas, le meilleur possible. Le plus chaleureux, chaleureux en famille, chaleureux avec des amis, voilà. Et si vous êtes loin de vos familles, eh bien, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. C'est très compliqué quand on est loin durant ce mois qui est un peu particulier. Voilà. Eh bien, c'est du bonheur aujourd'hui de vous retrouver à 23h. C'est bizarre. Hein, c'est particulier, 23h, 1h, voilà. C'est une vraie veillée, comme en temps on faisait. Vous voyez, une vraie veillée du mois de Ramadan. Une vraie Sahara, Sahara Ramadan, comme on les aime. Donc venez participer, chers amis. Venez nous dire comment vous avez passé cette journée. C'est très important pour nous, pour vous, de savoir, de partager, puisque c'est un mois de partage. Venez nous dire également, venez nous partager avec nous cette première veillée, cette première Sahara. On s'est déplacé pour vous, voilà, et on va rester jusqu'à 1h du matin pour vous. Donc faites-nous l'honneur de nous appeler. Voilà, au 01 53 48 3000. Le standard de Beurre FM est ouvert pour vous. Et c'est Anthony qui vous répond. Il vous répondra jusqu'à 1h. Et Anthony réalise également cette émission. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Vanessa. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. J'attends vos appels avec impatience, comme on dit. Toi, tu dis très gentiment. Je dis, faites-moi péter le standard. Au moins, c'est clair, c'est net, c'est précis.
Donc, voilà.
Faites-moi péter le standard.
On ne peut plus clair. Voilà, exactement. Donc on attend, vous êtes un peu ramollo là, hein. Vous avez eu le temps de, ben, je pense à mon avis, hein, de digérer la shorba ou la harira, je pense que vous avez eu le temps, hein. Je sais pas ce que vous avez fait, venez nous dire ce que vous avez fait à manger ce soir, bon c'est important aussi de manger, de remplir son estomac, bon ben moi j'ai fait shorba, bon c'est normal.
Ah toi
shorba.
Aussi.
Ah oui je fais shorba,
il y en a une ici,
j'ai
là,
fait pour
elle
deux jours.
Excellente.
Oui, ben la mienne aussi elle est excellente, donc ah ben, moi j'ai fait une shorba nana. Et Kasbour, tout ça, bon, classique. Et j'ai fait dolma. Ah ouais, premier jour, dolma. Dolma. Alors, dolma, c'est un plat algérien. C'est des courgettes farcies. Oh. Avec de la viande hachée, bien sûr, dans la viande hachée, on met du riz, on met beaucoup d'ingrédients dedans, des épices. Et puis, de la tomate farcie aussi. Mais c'est courgettes et tomates farcies. On peut mettre de la pomme de terre, j'aime bien mettre de la pomme de terre parce que ça épaissit un peu la sauce et c'est très bien. Et j'ai même mis des petits pois dedans. Voilà, des petits pois, des vrais petits pois, hein, pas des petits pois en boîte. Non, des vrais. Voilà, puisque c'est de saison. Et avec le ma'adnous, je peux vous assurer que c'était très bon. Surtout quand on n'a pas mangé toute la journée, c'est très bon. Voilà. Voilà, chers amis, et vous, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est bien, c'est pas mal déjà, non? Eh bien, venez me dire, vous, ce que vous avez fait ce soir. Je suis curieuse. Pour nous donner des idées. Pour tous les jours, vous savez, parce qu'on ne sait pas demain qu'est-ce qu'on fait, après-demain, etc. Donc, chaque jour, voilà, on va se dire ce qu'on a fait, ce qu'on a mijoté dans nos marmites. Hein. Moi, j'attends. J'attends vraiment que vous me disiez, vous me donniez vos menus. Et puis, les recettes qu'on peut échanger aussi.
Tu sais
et puis
que,
on peut... Oui, pardon.
Je te coupe deux secondes. Ton plat que tu m'as dit là,
oui,
ça me donne faim.
Ouais. Ah ben écoute, je te promets de t'en ramener. Promis.
Et moi, je te ramènerai un thé.
C'est gentil, mais ça va.
Ah bah, j'ai fait concurrence.
Oui, j'ai ramené ce qu'il faut. T'es un amour. Voilà, donc venez aussi peut-être vider votre cœur. C'est compliqué. Il y a des périodes dans l'année un peu plus difficiles, un peu plus compliquées que les autres. Eh bien celle-ci en particulier, quand on est loin de sa famille... Quand on est malade, quand on est hospitalisé, quand on traverse des moments difficiles, quand on traverse des deuils, quand l'absent, eh bien, sa présence, la présence de l'absent, voyez-vous, eh bien, elle est plus présente que en temps normal. Ai-je envie de dire, voilà. Voilà, voilà, chers amis, 01 53 48 3000, faites-moi l'honneur de venir participer, échanger avec nous jusqu'à 1h du matin. Et tout, eh bien, tout de suite, est-ce que j'ai fait mes petites pensées du soir? Pas encore.
Pas encore.
Alors, une pensée tout d'abord pour nos amis qui sont malades. Je vous souhaite un prompt rétablissement. L'Aïdjibukoum Shfashallah. Ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés, les personnes isolées, seules, chez elles. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Non, ça c'est en dernier. J'ai oublié les personnes incarcérées. Eh oui, on est là pour penser à tout le monde. Vous qui êtes derrière les murs, eh bien une pensée à vous. Je sais que vous nous écoutez. Je vous souhaite beaucoup de courage en ce mois un peu compliqué pour vous, pour vos familles également. Une pensée aux personnes qui travaillent de nuit. Je pense eh bien aux routiers, aux VTC, aux chauffeurs de taxi, aux ambulanciers, aux pompiers, aux policiers, aux routiers, j'ai dit les routiers, les éboueurs. Voilà, j'espère n'oublier personne. Et je pense aussi à notre amie Shana Samia, notre conductrice de bus, et à tous les conducteurs de bus, bien sûr.
Qu'on embrasse.
Voilà, qu'on embrasse très fort. Voilà, une pensée à tout le monde, sans exception, vraiment, tout le monde. Chers amis, une pensée aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, oui. Alors ça, j'appuie dessus, vraiment. Aux sans-papiers, très important, les sans-papiers qui sont loin de leur famille. Rabbi Ma'akoum, et on est avec vous aussi. Voilà, tous les soirs, à penser à vous. Aux réfugiés, oui, il y en a encore. Aux animaux, faut pas les oublier, les animaux. Ben oui, ils partagent nos vies hein, et cette planète avec nous. Ils ont leur utilité. 01 53 48 3000. Alors, nous avons Nordin qui nous appelle du 38, c'est l'Isère. Bonsoir Nordin.
Bonsoir,
bienvenue Nordin.
Merci.
Oui. Oui, toi aussi, Sahaf Torek Nordin. Je t'entends pas bien Nordin. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais je t'entends pas bien. Je vais te mettre en attente, essaye de nous rappeler, je te mets en attente. Hein. Il y a un petit souci. On va prendre Chemseddin en attendant. Ben, j'espère que ça va marcher, hein. Ça marche dans la journée. Pourquoi ça ne marcherait pas le soir? Il y a un truc là. Bonsoir Chemseddin.
Oui, bonsoir Vanessa, tu vas bien?
Ça va, je te remercie.
Oui, Sahar Torek ou Sahar Ramdanek à toi, toute ta famille, les auditeurs et l'équipe de Beurre FM.
Merci, toi aussi Chemseddin, Sahar Torek, Sahar Ramdanek, toi et toute ta famille.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah, tu sais, c'est marrant que tu... Enfin, en fait, tu as dit tout à l'heure ce que tu as fait à manger.
Oui.
Et ma mère a fait... Alors, un instant.
Elle a fait quoi?
Alors, elle a fait shorba, bah, comme toi, du coup.
Elle a fait shorba, oui, ça c'est classique.
Oui, enfin, voilà.
L'incontournable shorba et harira.
Exactement. Elle a fait aussi le burek.
Ah oui, aussi. Ah, ça j'ai pas fait. Ouais, le burek.
Elle a fait aussi shlada fulfen.
Ah, ça c'est bon ça.
C'est très très bon.
Oh, ouais, c'est
des poivrons grillés, ouais. Exactement.
Ouais,
c'est
oui,
très,
oui.
Très très bon. Oh, ouais. Elle a fait aussi un petit plat à côté. Tu sais, elle a fait des pommes de terre farcies à la viande hachée. C'est super
ah,
bon.
Ah oui, pommes de terre farcies. C'est,
ouais.
Ah ouais, ça, c'est pas mauvais ça. Elle le fait en sauce?
Alors oui, elle l'a fait en sauce avec des olives, c'est super bon.
Avec vraiment. Des olives? Ah, je connaissais pas
ouais,
ça.
Ouais, des olives vertes, c'est très 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 bon.
Ah,
en
ouais.
Fait, on a reçu aujourd'hui, si tu veux, donc on,
bon,
a fait un peu, ah. On a fait un peu des grandes quantités, mais sinon, c'était super bon.
Ah, c'est bon ça, oui, ça ressemble un peu au tagine. Mais sauf
oui,
qu'elle
bah,
a fait
bah,
les pommes de terre farcies avec de la viande hachée. Eh ben écoute,
voilà,
c'est une bonne idée, ouais. Non, c'est une bonne idée. Hein.
Ouais, et du coup, enfin voilà, avec un bon thé à la fin et tout, enfin voilà.
Ah, ça fait du bien. Ça fait
ouais,
du bien,
ça
hein.
Fait du bien, et surtout, ah. Ça, c'est quand même lourd, parce qu'on mange pas de la journée, on se rattrape
voilà.
Le soir. Après le soir, on fait pas grand-chose, donc
ouais.
C'est bien de sortir, par exemple, faire une promenade, ou tu vois...
Mm-hmm. Ben oui, il faut.
Ou enfin, marcher un peu, parce que tu sais, voilà.
Oui, après, faire au moins le pâté d'immeuble ou de maison pour pouvoir pour digérer, quoi. C'est important.
Exactement.
Ouais.
Exactement. Et du coup, je voulais aussi, comme tu sais, tous les ans, mon ami et son père
oui.
Organisent au jardin, tu sais, de... Comment il s'appelle déjà? À Aubervilliers.
Oui.
À Port d'Aubervilliers, tu sais, ils ont un camion et du coup, ils distribuent des repas. Tous
ah.
Les, voilà.
Ah oui, comme donc, une shabbat pour tous.
Oui, voilà, si on veut. Bon, c'est pas une chambre pour tous, mais...
Oui, mais c'est bien, c'est une belle initiative, formidable.
Bah, du coup, l'année dernière, je t'en avais parlé et tout, et
oui.
T'avais même donné les coordonnées de ma copine. Et donc, voilà, donc on organise ça. Bon, moi, j'y suis pas tous les jours.
Donc, c'est des repas qu'ils distribuent aux personnes nécessiteuses qui viennent chercher ses repas, quoi, et shorba,
voilà,
c'est ça.
Voilà, exactement. Mmh. Et on distribue surtout aux migrants, parce qu'il y en a beaucoup là-bas.
Eh oui, aux sans-papiers, aux
sans-papiers, ou même les gens qui ont des papiers et qui n'ont pas les moyens, tout simplement, de.
Mais oui.
De se nourrir avec leurs enfants et tout, c'est très compliqué en cette période, surtout en cette période, enfin cette année, voilà, avec l'inflation et tout.
Ouais.
Voilà, tout est cher et les gens ne s'en sortent pas, en fait, tout simplement.
Mais écoute, c'est magnifique cette initiative.
Ouais, c'est très très important, j'insiste vraiment. J'ai appelé hier, mais comme j'ai appelé un peu tard,
ouais.
Du coup, j'ai pas pu t'avoir, mais j'insiste vraiment sur le fait qu'on a besoin de dons, même si on en a pas mal, hein, nos dons personnels, mmh. On a quand même besoin de gens, tout simplement.
Ben oui, mais c'est important. Ben oui, il faut donner le nom de l'association.
Oui, donc c'est la Maraude de l'Espoir.
La Maraude de l'Espoir, et on peut la retrouver. Voilà. Elle est. Alors.
Sur les réseaux.
Sur les réseaux Facebook, peut-être
on est plus sur Snapchat.
Ah oui, ben voilà. Moi, c'est toujours des trucs.
Voilà. Et Snapchat, malheureusement, personne. Enfin.
Ah ben,
tout le monde ne sait pas s'en servir.
Ah ben, je connais.
Mais en tout cas, on est là-bas tous les jours. 30 minutes avant le tour.
C'est bien, très bien.
Moi, j'y suis pas tous les jours personnellement parce que j'ai des obligations professionnelles.
Oui.
Mais j'essaie d'y être tous les week-ends et quelques jours dans la semaine.
Ah, bravo, c'est bien.
Voilà.
Mais
sinon, tout le monde est là-bas et tout. Mais moi, personnellement, je peux pas y être tous les jours.
Ah oui. Bah, tu sais que sur Facebook, j'ai de trouver les maraudes de l'espoir.
Je sais pas si c'est pas nous. On a un peu copié. On n'avait pas d'idée de nom et du coup on a un peu cherché sur le net et voilà.
Une matinée avec la Maraude de l'Espoir. Oui, alors vous c'est la Maraude, j'ai trouvé je crois. Deux fois par semaine les travailleurs sociaux de l'association Espoir.
Non, c'est pas ça.
C'est pas ça c'est non pas plus. Ça. Vous pouvez pas changer de nom, trouver un nom plus facile à vous retrouver parce qu'il y en a 50 000.
Ouais, justement. Bah voilà, donc tout le monde a piqué un peu l'idée des autres et
voilà. Du coup, voilà.
En tout cas, on fait tous une seule et même action,
oui.
D'accord.
Oui.
C'est d'aider les autres, tout simplement.
Donc, d'accord.
Qu'on ait le même prénom ou qu'on n'ait pas le même prénom, voilà. Le principal, c'est qu'on aide les gens et
ben voilà. De toute façon, voilà toutes ces initiatives. Moi, je leur dis bravo. Voilà.
Si on peut leur faire un peu de bien et surtout en Île-de-France, parce que c'est beaucoup. Il y a beaucoup de nécessiteux en Île-de-France.
Il y en a partout, malheureusement. Mais c'est très bien.
Partout,
en tout cas, c'est bien. C'est bien ce que vous faites. Voilà. Bravo. Merci, Chem Seddine.
Et oui. Vanessa, je voulais juste savoir, en fait, tu sais, le garçon qui est malade.
Mm-hmm.
Je veux dire, est-ce que c'est possible de contacter l'hôpital pour envoyer des virements directement à l'hôpital?
Ah, le petit garçon d'Algérie. Alors, ça, je ne sais pas du tout. Il faut appeler. Il y a un numéro? Regarde s'il y a un numéro. Je ne sais pas s'il y a un numéro. De téléphone. Alors, j'essaie de regarder. Paf, paf, paf. Alors.
En fait, est-ce que l'hôpital a déjà pris en charge ce.
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Moi, c'est Shana, notre conductrice du bus, qui m'a informée et qui a mis le lien sur mon mur de Facebook. Bon, elle vérifie, bien sûr, bien avant. Et
bien sûr. C'est normal.
Voilà. Donc, c'est elle qui m'a informée de ce petit garçon de 5 ans qui est sous traitement médical, mais intense, hein, vraiment, c'est. Alors, je vois pas de numéro. S'il y a un numéro de téléphone.
Okay.
Alors, attends. Oui. Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler le 07. Tu as de quoi noter?
Ouais, alors, je peux prendre juste un petit
mot. Alors, voilà, 07 58 68 26 87. Je répète, 07 58 68 26 87.
Merci. En fait, c'était pas de cette personne que je parlais, mais je vais quand même prendre le numéro. Mais en fait, il y avait aussi un jeune qui avait un souci que tu avais vu dans une manifestation.
Le petit jeune de 18 ans.
Oui.
Alors, voilà, donc, Shana, encore, c'est toujours, voilà, elle en fait des choses. Donc, à travers son association, avec son collègue et ami Nabil. Ouais. Eh bien, ils ont fait le nécessaire. Vraiment, c'est des personnes remarquables.
D'accord.
Et puis, il y a aussi des auditeurs qui ont aidé. Donc, ce qui fait que je pense qu'il est à l'abri. D'après ce qu'elle m'a dit, il est dans un foyer. Donc, ils l'ont trouvé à l'abri. Ils ont fait aussi, tu sais, des démarches, etc., administratives pour qu'il soit soigné.
Très bien.
Voilà. Donc, Shana...
Maintenant, on va se concentrer sur le petit. Hein.
Alors, le petit qui a 5 ans, qui est en Algérie et qui est dans un état, c'est pas possible. Donc, si vous pouvez appeler... ce numéro de téléphone, comme ça vous aurez plus de renseignements, parce qu'il y a une cagnotte litchi Alors, ouais. La cagnotte Litchi, c'est aider Islem Djebbar à financer son opération. Sinon, d'accord. Vous appelez au 07 58 68 26 87. Ah, moi, j'ai les photos, là. Hein. C'est terrible, hein, ce
petit. Oui, mais par contre, je suis un peu en colère quand même, parce que il est quand même petit, il a quand même besoin de soins, et on ne lui fait pas un visa médical. C'est quand même bizarre.
Qui fait le visa médical?
Bah, il est en Algérie, tu m'as dit.
Oui, mais qui va lui faire un visa médical? J'ai pas compris.
Bah, les autorités, je veux dire.
Les autorités françaises?
Non, les autorités algériennes, il faut que ça soit.
Les autorités algériennes, il y a des soins en Algérie, mais comme les soins ne sont pas. Parfois, il y a des maladies, c'est compliqué à soigner. Donc, on essaye de les faire venir partir ailleurs, comme dans tous les pays où, disons, le médical n'est pas performant comme en France. Oui. En France, c'est au top. C'est voilà. Donc, oui. Tous les pays d'Afrique du Nord, etc., t'as des gens qui viennent de partout pour se faire soigner. Mais un visa médical, c'est juste pas possible. Ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait les fonds déjà. Sinon, t'imagines, ça, c'est des millions et des millions et des millions. Tu comprends? C'est très très cher. Donc nous, on fait au compte-goutte quand on apprend qu'un enfant, eh bien, se trouve dans une situation vraiment comme celle d'Islem, où ses jours sont comptés s'il se fait pas soigner. Eh bien, nous, on informe. Voilà.
Hein. Bien sûr.
Voilà, Chemseddin, pardon. Je t'embrasse.
Merci beaucoup, Vanessa. Je t'embrasse fort. Bonne soirée.
Saha Sahurik. À bientôt. Au revoir. 01 53 48 3000, chers amis. Eh oui, nous sommes le premier jour de Ramadan et c'est la première veillée que nous passons ensemble. La première Sahara. Quelle joie, quel bonheur que cette veillée soit lumineuse pour vous. Que la lumière inonde vos maisons et vos cœurs. Inch'Allah. Vraiment, rahma surtout. Rahma ala galimato. Je sais que ce soir, aujourd'hui, ça a été difficile quand vous êtes mis à table. Je le sais. On passe tous par là. Parce qu'il manque toujours quelqu'un. Quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Voilà. On n'a plus espoir que un jour il retrouve cette place qui restera vide à jamais. Mais la place n'est pas vide. Parce que de là où il est, eh bien, la rahma alaykoum. Et il est dans une dimension qui, à mon avis, doit être une belle dimension. Voilà. Voilà. Et puis, de toute façon, on est tous de passage dans ce monde. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, en tout cas, si vous avez perdu un proche. Parce que c'est très compliqué durant le mois de Ramadan de voir la chaise vide. Et puis si vous avez quelqu'un de votre famille, votre enfant ou un frère ou je ne sais quoi, je ne sais quelle personne qui pourrait être proche et qui actuellement est incarcérée, eh bien je vous souhaite beaucoup de courage aussi, chers amis. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Quand on ne sait pas, on se tait, on est là pour soutenir. Donc les familles qui ont des enfants ou des parents incarcérés, eh bien de tout cœur avec vous. Et je sais qu'ils nous écoutent de là où ils sont. Les garçons, moi je vous souhaite vraiment un avenir meilleur et je vous souhaite surtout la sérénité et de faire de beaux projets là où vous êtes pour ne plus jamais y retourner. Vraiment, voilà. De tout cœur avec vous et avec toutes les personnes qui sont en souffrance dans ce monde. Julia nous appelle du 95. Notre Julia, bonjour Julia.
Ça va, moi, du coup,
bonjour Julia, comment vas-tu?
Ramadan Mubarak Saïd à la Koulisim Fad Lia Tabla.
Merci.
Je souhaite un très bon Ramadan à tous les musulmans du monde et que ça se passe bien. Je vais bien, je vieillis, donc je ne peux pas faire le Ramadan avec le traitement, ça ne va pas.
Oui.
Mais j'ai fait mes prières et je suis. Voilà, mes enfants le font pour moi et puis. Voilà.
Bah écoute, je te souhaite un prompt rétablissement, ma chérie.
C'est la vieillesse, c'est tout. C'est pas, y a rien de grave, mais c'est la vieillesse qui se passe, ben, plus ou moins. Un jour t'es bien, un jour t'es pas bien.
Ben écoute, c'est comme ça, la vie, hein. La vie, elle est faite aussi.
À 78 ans, tu sais, on va plutôt vers le bas que vers le haut.
Oh, c'est pas vieux, hein, aujourd'hui, hein. Faut pas exagérer. Hein.
Voilà, ben, j'étais pour te souhaiter un bon Ramadan, et puis à tout
merci,
le monde. Et
merci, merci infiniment.
Pour qui je fais, à tous les auditeurs, et puis un propre établissement à tous ces enfants qui sont malades. Et surtout que cette France, eh ben, elle a nié parce qu'elle part en cacahuète. Quoi. Voilà. J'ai peur pour nos enfants.
Espérons.
Dans ce monde.
Ouais, espérons que des jours meilleurs.
Mais j'espère que tes petits chiens vont bien.
Oh oui.
Que ta maman va bien.
Ça va, ça va. Bien. Tout doucement, ça va.
Et voilà. Moi, je te suis, même si je n'appelle pas souvent, je te suis.
Oui.
Je te suis.
C'est
toujours,
gentil.
Toujours. Et je te souhaite le meilleur.
T'es un amour, Julia.
Je te fais à tous de gros bisous.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Je t'embrasse fort aussi.
Gros bisous, ma chérie.
Et ça, Sahar Mdan.
Et tu es très belle avec ta coupe de cheveux. Tu vas me réveiller. Mashallah.
C'est gentil. Merci, Julia. Merci beaucoup. Je t'embrasse fort.
Allez, bisous.
Bisous, à bientôt. Merci. Adorable, notre Julia, qui est vraiment une fidèle de chez Fidèle, hein, depuis le début de Confidence. Elle est présente. Et oui, elle est présente aussi sur Facebook. 01 53 48 3000. Alors, est-ce que Nourdine, son téléphone va mieux? Parce que tout à l'heure, il était un peu souffrant, son téléphone. Nourdine?
Non, parce que j'ai mis le haut-parleur, non?
Ah ben voilà, ben voilà. Déjà, on se fâche le premier jour de Ramadan. Ah non. Nourdine, hein? Ça va? Tu vas bien? Alors, comment s'est passée cette première journée?
Oh, ça va. Moi, je peux pas le faire parce que je suis diabétique.
D'accord, c'est pas grave, on partage le moment. C'est le c'est, disons... même si tu le fais pas, parce que tu es malade, c'est normal, il faut pas le faire. Tu sais, la religion, elle fait pas mourir les gens. Bien sûr que quand on est malade, on ne doit pas le faire. Mais tu partages, on partage avec toi. C'est pareil. C'est comme si tu le faisais. Hein? C'est l'intention qui compte. Hein, Nourdine?
Je participe. Ouais, ouais, c'est l'intention.
C'est l'intention. Bien sûr. C'est ça qui est important. En tout cas, je te souhaite vraiment un prompt rétablissement. Que ça aille mieux, surtout pour ta santé. Sinon, tu voulais nous parler de quelque chose de particulier, dis-moi.
Je voulais vous parler de quelque chose d'important.
Alors vas-y, si c'est important.
Je voulais parler de la religion.
Ah ouais. Mais écoute, de la religion, ce serait bien que tu appelles pendant l'émission d'Abdelali Mamoun, de Philippe avec Abdelali Mamoun. Et là, tu auras du répondant. C'est à quelle heure déjà? Parce que j'ai pas le sous les yeux le. C'est avant.
Je crois que c'est vers 18h.
18h, oui, c'est ça.
Avec Philippe Robichon. Ça a pris la place de Adil Farkan avec les informés. Voilà.
Alors, c'est à 18h. Alors, il y a une émission, je sais plus comment elle s'appelle parce que j'ai pas du tout la liste sous les yeux des programmes.
Alors, attends, je vais chercher.
Mais 18h, tu peux appeler et là, t'as mon collègue Philippe Robichon avec l'imam Abdelali Mamoun qui pourront te répondre. Mmh. Parce que te répondre à tort et à travers, franchement, ce serait dommage quand même de dire n'importe quoi.
Non, je connais son appellation, je crois, c'est pour vous dire, quoi, ce qui se passe au paradis.
Ah ben écoute, il vaut mieux en parler avec eux, hein, parce que ce qui se passe au paradis, moi je sais pas. Moi, ce qui se passe au paradis, pour l'instant on est sur Terre. Donc déjà, on a de quoi faire. Regardez, il y a des manifestations. Dans le monde, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui perdent leur travail. Il y a des gens qui tombent malades. Donc on a beaucoup à faire sur Terre. Donc le paradis viendra au moment au moment où il devra venir. Pour l'instant, on est sur Terre. C'est vrai ou pas?
C'est comme on dit, il faut de tout pour faire un monde.
Voilà, ben oui, mais il faut vivre sur Terre avant de penser au paradis, tu crois pas? Donc il faut faire le bien déjà.
Oui, on est obligé de vivre.
Donc il faut faire du bien. Si tu veux le paradis, fais du bien sur Terre.
À 18h.
Tu vois, regarde, à 18h, oui. Regarde par exemple tout à l'heure Shamseddin, qui fait partie de cette association de bénévoles, qui a parlé de cette association de jeunes, de l'espoir, je ne sais plus ce que c'est, l'opération de l'espoir. Il y en a beaucoup, hein, des associations. Ben voilà, ces gens-là, ils font tout pour montrer le meilleur de l'humanité. Ça, c'est important. Hein?
Si, c'est bien, hein.
Bah, c'est ça qui est bien. Bon, maintenant, décrire le paradis, c'est peut-être, enfin, je sais pas, mais bon. Hein, Nourdine?
Hein, tu veux pas savoir?
Non, je veux pas savoir. Là, je suis sur Terre pour l'instant. D'accord? Ouais. T'es informé directement, alors?
Ouais, j'ai un peu de chance.
Ah, Nourdine, tu sais, tout arrive à qui sait attendre, hein. Voilà, mais bon.
C'est le vrai monde.
Comment?
C'est le vrai monde.
Je t'entends pas très bien.
C'est le vrai monde.
Oui, enfin. Oui, Nourdine. Enfin, le vrai monde. Mais t'es déjà dans un monde. Donc, il faut accomplir des belles choses dans ce monde. Tu comprends? Parce que c'est simple de décrire les choses. Mais, regarde, par exemple, je vais te donner un exemple. Tout bête, hein. Voilà. On va parler d'une famille. Voilà, et qui, alors, ils vont promettre un séjour, ou alors des amis, allez, des amis, parce que je veux pas qu'il y ait des enfants dedans et tout, parce que ce que je vais dire, ça va être dur. Des amis qui veulent aller en vacances quelque part, allez, qui veulent aller, par exemple, dans le sud de la France ou ailleurs, et pendant des mois, eh bien, ils regardent des photos, ils s'envoient des photos, et puis ils se disent, Ça va être génial, regarde. Oh, c'est paradisiaque, ces paysages. La mer, le sable fin, etc. Donc, ils réservent, ils sont contents. Ils attendent le moment, ce moment, avec impatience, tu vois. Et ils échangent des photos, et ils s'envoient des photos en disant, mais attends, mais c'est le paradis, regarde comme c'est magnifique. Le sable fin, etc., etc. Vivement, le mois d'août, qu'on puisse aller dans cet endroit paradisiaque. On est d'accord, Nordine ?
Ouais.
C'est génial. Ils parlent d'un endroit magnifique pour passer des vacances. Et ils en rêvent et ils décrivent l'endroit. Le sable, il est fin, mais tu verrais les fruits, les cocotiers. Les... Oh là là, c'est... Le gars qui connaît, il décrit. Il dit, regarde, oh, c'est magnifique. Ils sont tous contents.
Quoi.
Non, mais c'est pas ça, écoute bien. Ils sont contents. Alors, ces gens-là, si, avant de partir, eh bien, ils connaissent bien la route, ils prennent des précautions pour prendre la bonne route, mais surtout, qu'ils se reposent avant de partir, qu'ils soient prêts, qu'ils soient frais, et surtout, qu'ils soient, on va dire, agents, pour ne pas dire, parce que certains qui prennent la route et qui ont bu de l'alcool, on voit ce que ça donne. Alors, d'accord. Mais si ces gens qui ont rêvé, qui ont brigué cet endroit magnifique pour passer des vacances, eh bien, ils fêtent ça, ils arrosent le soir leur départ avec des boissons alcoolisées et qu'ils prennent la route, ben, ils arriveront peut-être pas à bon port. Tu vois, ils arriveront jamais dans cet endroit paradisiaque. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ils ont fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Ils ont fait beaucoup d'erreurs, ils ont fait des bêtises, ils ont bu de l'alcool, etc. Eh ben, malheureusement, eh bien, peut-être qu'ils n'arriveront pas cet endroit qu'ils ont rêvé. Donc le paradis, quelque part, pour faire une métaphore, c'est pareil. Pour y avoir accès, il faut faire accomplir de belles choses sur Terre. Comme ces jeunes qui distribuent à manger, tout ça, c'est ça. C'est pas dire, ouais. Ah ben je vais décrire comment il est le paradis. Non, c'est je vais faire de sorte, peut-être que Dieu accepte de me donner, de m'octroyer une place. Je vais faire tout mon possible ici sur Terre pour que Dieu voit ce que je fais et peut-être qu'il me donnera une petite... Voilà. Donc, il faut faire les choses pour y avoir droit.
Bien sûr, pour faire le bien.
Voilà. Et oui, oui. Hein, pour,
beaucoup de
ben
bien,
oui,
quoi.
Pour y avoir droit et pour le mériter. Tout se mérite. Je t'embrasse, Nordine.
Merci.
Bonne soirée. Et oui, tout se mérite. Voilà. J'essaye de faire une métaphore pour expliquer les choses parce que c'est bien beau de d'écrire, mais on ne sait pas si on va y accéder. Donc, il faut œuvrer, à mon avis, faire des belles choses ici sur Terre. On a Samia, nous appelle de la Seine-sur-Mer. Très belle région. Bonsoir, Samia.
Bonsoir, Vanessa.
Toi aussi.
Maman et tout le monde, Inch'Allah.
Merci, toi aussi.
Voilà, il y a deux jours, j'arrive pas à vous joindre. Je voulais un peu parler avec pour Hakim, que. Alhamdoulilah, lui.
Oui, tu l'as entendu.
Jeune, là.
Il a appelé avant-hier, on était contents.
Oui. Et après, je vous ai appelé parce que mon fils, il n'arrive pas à vous. Comme il est sur Paris, les soins et tout ça. Et comme je parle toujours de toi, il m'a dit, maman, il faut. Je lui dis, ça y est, il est en train de faire, il a fait un petit TikTok. Il m'a dit, je voulais parler à Vanessa, mais il ne peut pas attraper les réseaux. Ils ont pas de.
Ah ouais?
Il est sur Paris, oui. Il m'a dit, je suis sur TikTok.
Mais il devrait nous appeler.
Il ne pourra pas, parce que les réseaux, il n'y a pas de réseau, ça ne sort pas. Mais il a fait un petit TikTok pour vous, pour Ramadan.
Ah.
Il fait le courant. Il a dit, c'est lui qui lance l'imam.
Il est imam?
Ah oui. Il est, pardon,
j'ai pas entendu.
Voilà.
Il est quoi?
Il enseigne l'imam.
Il enseigne?
Il
enseigne aux imams.
Aux imams.
D'accord.
Il a fait.
Ah oui.
En plus, il vous a fait un TikTok comme cadeau, TikTok.
Oui.
Je voulais appeler le 15 avril parce que c'est le. Vous avez le même. J'appelle aujourd'hui. Oh. Comme TikTok, son nom, il a appelé. C'est pas comme tout le monde.
C'est Mehdi. Quoi son nom?
Le TikTok. Vrai El Mehdi.
Ah, El Mehdi, oui. Ah ouais, attention.
Le vrai El Mehdi. El
Mehdi.
El-Mehdi. Vous allez le voir en photo chez Laka. Parce qu'il me l'a fait cette photo. Elle est chez
il est sur TikTok. Enfants. Pourquoi ils vont sur TikTok? Moi, j'ai un TikTok, j'arrive
pas,
moi.
C'est parce que ce sont.
C'est des jeunes c'est maintenant, ils vont sur TikTok. Fille.
Non, c'est le plus jeune et c'est le fils à ma fille qui lui a fait ça parce qu'il parle avec lui beaucoup.
Ah oui, 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 parce que TikTok, c'est pour. Oui, oui, c'est. Je sais pas, c'est très vu, hein, ça. Alors, il est où mon TikTok? J'arrive pas à le trouver.
Il a fait autrement et il a fait sa photo comme ça, j'ai cette photo. Ah. Et il vous aime aussi. Il m'a dit, je voulais.
Ah, c'est gentil. J'aimerais bien le trouver, moi. Tu es où, Samia? Samia? Samia, je t'entends plus. Qu'est-ce que t'as fait avec ton téléphone? Allô, Samia? Ah ben voilà, quand on fait ça, c'est que c'est en attente. Peut-être qu'elle a reçu un double appel, à mon avis. Samia, je te reprends juste après. On va prendre Naïm. Après. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, son fils, Al-Mahdi, je vais le trouver, il faut que je le trouve. Bonsoir, Naïm.
Oui, bonsoir, Vanessa.
Bon, comme, Saha Aftorek, hein, et puis Saha
Al-Mahdi. Barak, Awashirkoum, ouais.
Yes, c'est le mec.
Saha Aftorekoum.
Merci, toi.
Et moi, j'appelais pour dire que c'est, bon, c'est un peu tard, là, hein, 23h, 1h.
Ah, c'est Sahara, hein. La veillée.
Ouais, oui, je sais, mais bon, comme je disais avec ma femme, là, on est habitué à 21h, 23h.
Oui.
Ça aurait été cool de faire 22h minuit.
22h minuit. Ouais, mais bon, il y a d'autres programmes avant moi, alors donc tout a été décalé, tu sais, pendant le mois de Ramadan, on décale tout.
Hein. Ouais.
Bah ouais.
Ouais, c'est vrai. Mais après, bon, c'est vrai que c'est bien de Sahara pendant Ramadan.
Tu bled, c'est comme ça dans les pays du Maghreb. On fait Sahara. Et les gens, ils veillent très tard. Après, ils ont le Saharo, tu vois.
Pas faux, mais bon, dans les pays du Maghreb, les horaires de travail sont adaptés aussi. Le matin, ils ne lèvent pas à 8h ou 7h.
Ah oui, c'est, tu crois que c'est adapté vraiment partout?
Ah oui, en Algérie, au Maroc, à Tunisie, ils adaptent toutes les horaires du travail. Ils se lèvent par un peu.
Eh bien, on va demander là, ici. Pourquoi vous demandez? Tout le monde sort dans la rue, là, ils manifestent. Chacun, il manifeste pour sa paroisse.
Ah, c'est vrai. On aurait pu demander.
Eh bien, sortez, manifestez. Aménagés. Dites, voilà, on veut. Voilà, on veut des horaires aménagés que pour
c'est
nous qui faisons Ramadan.
L'administration, les administrations dans les pays musulmans, quand c'est le Ramadan, ils ferment un peu plus tôt, de façon à ce que les gens puissent préparer
à
manger, etc.
C'est vrai.
Mais bon, après, voilà. Donc, c'était pour vous dire, Mbarak Awashirkoum et Sahab Tolkoum.
Merci. Comment tu l'as passé aujourd'hui, cette première journée? Pas trop compliqué?
Et moi, je peux pas faire le Ramadan, moi. Donc, j'ai une maladie aussi, donc je peux pas.
Ah oui, ah bah dis donc.
Ma femme le fait, donc.
Ah ouais.
C'est bon. Après, on participe. C'est comme si c'est tout comme. C'est pareil.
De toute façon, c'est pareil. C'est comme si tu le faisais à partir du moment.
Pas, je mange la halena et je suis baquillé le soir.
Ah bah oui, ça, hein.
Voilà. Mais sinon, c'est oui, ça doit être ça. Le premier jour, ça doit être un peu délicat, ouais.
C'est.
Ça doit être un petit peu délicat le premier jour.
Premier jour, oui. C'est un peu compliqué. Je pense que la soif, tout ça, encore, ça va. Il ne fait pas trop chaud, mais bon. Moi, je dis hydratez-vous. Oui, voilà. Hein. Tous les ans, je le dis. Hein, je répète. Je dis hydratez-vous, buvez. C'est très important. De l'eau, hein, pas de soda. Parce que ils vont se ruer sur les sodas là, qu'on connaît de non, chez nous, avec le noir et le blanc là, qu'on connaît, qui commence par H. Donc, on aime bien. Mais très honnêtement, vous le payez cher, c'est du sucre. Et le lendemain, vous payez cher. Donc, buvez de l'eau. Il n'y a pas comme l'eau. Voilà. Vous mettez des feuilles de menthe dedans.
De thé, ouais.
Moi, regarde, j'ai ramené mon espèce de. Comment on appelle ça, ça? Comment on appelle déjà? Mon petit cœur, là, ou je sais pas quoi.
Non, c'est pas.
Ça porte un nom, maintenant.
C'est pas une gourde, parce qu'une gourde, c'est un
pot. Non, c'est un pot, là.
C'est. J'ai plus le nom.
Un thermo.
Non, non, tu sais, comme un checker avec une paille.
Comment un thermo.
C'est comme si on allait dans un fast-food et on nous sert la boisson dans
un truc comme ça, mais c'est
gobelet.
Celui-là, c'est un dur.
Enfin, un gobelet avec un bouchon, quoi.
Oui, ça porte un nom. Tu sais que ça porte un nom.
Oui, mais je ne l'ai plus.
Moi aussi, je ne l'ai plus. J'ai oublié avec le nom. Avec tout le temps, on nous change. Bref, en tout cas, dans mon pot, là. Dans mon pot avec un couvercle et une paille.
Ouais, non, bah, ton gobelet, appelle ça un gobelet.
Mon gobelet qu'elle m'a offert, ma petite Faïsa, que j'embrasse très fort. Eh bien, ce gobelet, très honnêtement, avec un couvercle et tout, je mets de la tisane dedans, Naïm. Mets de la tisane.
Ouais, mais super, ça.
Tu vois, je mets de la tisane, verveine, tout ça qu'il faut. Et j'ai mis des feuilles de menthe fraîches. À l'intérieur. Des menthes
après,
fraîches.
On peut mettre, plus, on peut mettre plusieurs.
Tu peux mettre ce que tu veux, mais il faut en boire toute la soirée, tu bois ça.
Ouais.
Tu comprends?
Ouais.
Parce que les gens qui boivent du soda, qui boivent des choses sucrées, des jus de fruits, etc., qui ne sont pas des jus de fruits, hein, tout est sucré, eh bien, le lendemain, ils le payent cher. Mettez de l'eau, et à la limite, si vous aimez pas trop l'eau, mettez des feuilles de menthe. Moi, je mets des feuilles de menthe que j'achète au marché.
Et de l'absinthe aussi, c'est bien.
L'absinthe?
Shiba.
Attends, l'absinthe,
oui,
attention.
C'est
parce
bon.
Que, parce que l'absinthe,
c'est bon pour les bronches, Shiba.
Ça peut prêter à confusion, l'absinthe. Hein.
Non, pas la. Non, mais oui, parce que la liqueur d'absinthe, oui. Mais là, l'absinthe, la feuille, on peut le mettre avec la menthe. C'est très bon pour les bronches.
Ah oui, peut-être. Attends, l'absinthe. Parce que, attention, parce que regarde, l'absinthe est un ensemble de spiritueux à base de plantes d'absinthe.
Et oui, mais quand elle est. Voilà,
alors, l'absinthe, juste la feuille, hein, les fleurs, hein, les feuilles.
Voilà, Shiba.
Attention, n'achetez comme pas l'absinthe en bouteille, Hadek, c'est de l'alcool. Douille-moi.
Non, l'absinthe en feuille.
En feuille, les feuilles,
en feuille,
voilà.
Vous la mettez avec la menthe à l'intérieur.
Tu sais comment on appelle ces feuilles? On les appelle la fée verte. Oh, c'est beau. La fée verte. Ou la fée bleue.
En fait, à forte quantité, l'absinthe, ça enivre. Il y a de l'alcool d'absinthe. Mais avec les feuilles, oui. En fait, ça dilate les bronches, ça fait du bien aux bronches,
ah oui,
au poumon.
Ah ben tiens, c'est bon à savoir. Attends, ne pars pas, Naïm. On te reprend juste après. Allez, 01-53-48-3000, venez participer avec nous à la première Sahara de Ramadan. Première veillée du mois de réveillon, de Ramadan, de réveillon, n'importe quoi. Première veillée du mois de Ramadan. Voilà, chers amis. Et j'espère que... Bah écoutez, que vous passez une belle soirée avec nous, hein, j'espère. Nous, on est tous les deux, là, on est contents. Une petite pause. Allez, une pause et on revient juste après, tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 23h, 1h, Confidence avec Vanessa sur Beurre FM.
Toujours avec Naïm, 01 53 48 3000, vous êtes sur Beurre FM. Et nous sommes ensemble, confidence spéciale veillée Ramadan, jusqu'à 1h du matin. Naïm,
J'avais une suggestion aussi.
Ah, c'est bien.
Il faut apporter des idées tout le temps.
Ah oui, oui.
Et
oui.
Pourquoi vous ne feriez pas l'émission en live sur TikTok en même temps?
Alors là.
Moi, je dis pas non.
Là, tu m'as demandé,
voilà,
tu sais
parce
quoi
que... Il y a quelqu'un chez vous, je crois que c'est DJ Kim ou DJ...
Ça doit être Kim. Ouais, ça doit être Kim, ça.
Eh bien, vous pourrez le faire, c'est super sympa.
Ah, il fait ça, Kim, il fait en direct sur TikTok, ouais. Il fait. Ah ouais. Ouais, mais les modernes, Kim.
C'est pas la peine de faire toute l'émission, mais une partie de l'émission, il y aurait le son et l'image.
Ah, d'accord. Ah, ben écoute, je connaissais même pas ce truc. Je savais même pas qu'on y avait possibilité, comment on fait. C'est compliqué.
Et si Anthony, il est pour, Anthony. Hein.
Ah, ben Anthony, il est partant, il a 20 ans, Anthony, alors t'imagines.
Je suis partout, j'entends tout, je vois tout.
À son âge, c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est son époque.
C'est pas mal, hein, c'est innovant et puis.
Et ça fait quoi? Ça veut dire que vous voyez la bouille des animateurs. Moi, j'aime pas trop montrer quand je parle.
On voit tout ce qui se passe en fait. Il place la caméra avec le téléphone.
Ah ouais.
On voit tout ce qui se passe,
oui, parce que Kim a des invités, donc il a toujours des chanteurs. Il a, tu vois, donc voilà. C'est intéressant. Mais moi, qu'est-ce que vous avez? Vous avez que ma bouille à moi. C'est pas intéressant.
Bah si, t'es magnifique.
Il y a tous les auditeurs quand même.
Oui, mais les auditeurs, tu les vois pas?
Ben ils laissent des messages, etc. Et puis. Et puis on voit, c'est plus, on va dire que c'est plus animé, quoi.
C'est vrai que dans d'autres radios, d'autres émissions sont filmées en direct.
On s'en fout des autres radios, nous on parle de nous.
Oui,
mais nous on est les meilleurs.
Oui, bah c'est pour ça, je dis, ça serait bien que on le fasse.
Mais on le fait avec Kim.
Oui, mais
Kim, c'est pas pareil. Kim, il reçoit des invités. Kim reçoit des invités.
La dernière fois, il a fait en direct, et il y avait même la journaliste qui a fait le journal à 11h, je sais plus quelle heure.
Oui, oui.
Ben, c'est sympa, quoi. Ça amène un petit peu.
Oui, il est avec Mounard, donc ils sont à deux, ils animent.
Ben, ils montent les coulisses.
C'est autre chose, mais bon.
C'est ça.
Mais moi, je suis, tu sais, la radio ancienne, à l'ancienne, du temps de, Ménie Grégoire, qui c'est qu'il y avait?
Difool.
Non.
Oh, ben, les radios pirates, bah si.
Mais non, je parle des émissions qui ressemblent à celle-ci, où les gens appellent de nuit. Et ça, c'est, voilà. Tu comprends? Et j'aime bien le mystère quand on voit pas la tête des gens. Parce que quand on voit, Le rideau est tombé, quoi. Mystère, il n'y a plus rien, on ne sait pas.
Après,
le,
bon, voilà,
quand tu vois le décor, c'est pas... Voilà. Moi, j'aime bien garder une part de mystère. C'est comme ça, que veux-tu? Tu sais, Sherazade, c'était ça aussi. Hein. Je m'identifie à Sherazade. On a... Alors, attends, ne pars pas, Naïm. Ezzoul. Ezzoul.
Oui, bonsoir. Bonsoir, Vanessa.
Oui, alors, dis-nous, Sahar Ramdanek, en Kabyle. En Kabyle.
Ah, ben, ça se dit pareil, parce qu'en Kabyle, il n'y a pas de Ramdan en Kabyle. Parce qu'avant, ils n'étaient pas musulmans.
Oh, mais bien.
Ils étaient chrétiens avant.
Ben, joyeux Noël, alors que ce que je te dis.
Joyeux Pâques.
Non, Sahar Ramdanek,
Aïe, mon mésan, c'est pour ça qu'on t'aime.
Moi, je vais vous dire, vas-y, que vous fassiez le ramadan ou que vous le fassiez pas,
on ira tous au paradis.
Si vous avez fait des bonnes actions, ça va. Si vous n'avez pas fait des bonnes actions, vous pouvez faire tous les ramadans que vous voulez, ça changera rien.
C'est ce que j'ai dit à Nordine.
Voilà.
Nordine qui voulait nous décrire le paradis. Alors je lui dis non, attends, stop.
C'est intéressant.
Non, mais décrit, tu sais, genre, tout ce qu'on raconte, quoi. Il y a des rivières, des machins. J'ai dit non. Il faut avoir, accès, déjà. Il faut pouvoir y arriver. Donc, pour y arriver.
On peut l'imaginer, quand même. On peut pas savoir. Mais
oui, mais enfin, bon, bah, restez dans votre imagination. Travaillez. Travaillez avant, ici, sur Terre, là. Faites du bien.
Oui, bon, bah, écoute, de toute façon, on peut discuter pendant des siècles. On n'arrivera jamais à savoir. Mais il n'y a que l'imaginaire qui peut. Chacun peut avoir son imaginaire.
Ah oui, bien
sûr. Ce qui serait intéressant.
Ah non, mais là, c'est pas l'imaginaire.
Chacun apporte comment il verrait son paradis.
Mais Zéane, et c'est pas que chacun. Parce que quand tu parles avec des gens qui sont croyants, il y a des personnes croyantes,
oui.
Ils vont te décrire ce qu'il y a écrit dans les textes. On va pas sortir des textes, c'est tout.
Je sais pas si vraiment, dans les trois religions.
On n'est plus dans l'imaginaire, là. On
mais
est
attends,
dans.
Vanessa, oui. Je pose la question à tous les gens qui ont étudié les textes religieux, les trois religions. Est-ce que dans les textes, le paradis est défini d'une manière ou d'une autre décrit? Comment est-ce qu'il est décrit?
Non, pas du tout. Allô?
Oui, Naïm, oui.
Alors, pas du tout, parce
ça
que.
Ça
va, Médiane?
Ça va, comme un vieux
chien.
Zulflaouk, Naïm.
Alors, ça dépend, parce que alors je sais que ce qui est marqué, ce qui vient en islam, c'est que Dieu dit que j'ai préparé pour vous ce qu'aucun œil n'a jamais vu et aucun oreille n'a entendu, etc., etc. Donc, personne n'a jamais vu, bien évidemment. Mais on a des récits authentiques décrivant, et après, comme on dit, Allahu alam, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas.
Ah, ben oui, on ne sait pas. Ben, non, mais voilà. C'est tout le problème.
Reste
tout le problème, c'est
le domaine
que...
de l'imaginaire.
Non, mais justement, toi, Naïm, tu m'as l'air très bien renseigné.
Très bien de voir. T'es parti.
Je te demande une chose.
Attends. Genre, oui. Toi, Naïm, t'as l'air bien renseigné. Tu as fait un séjour déjà. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Je ne sais pas. Naïm,
écoute-moi. N'écoute pas, Vanessa.
Moi, pour l'instant.
Mais tu délires. Tu délires.
Écoute-moi, Naïm.
Comment tu dis à Naïm, t'es bien renseigné?
Est-ce que la foi, c'est quelque chose qu'on a à la naissance, ou c'est quelque chose qui arrive subitement, ou ça vient de, comment on appelle ça, d'un formatage familial, ou de, voilà. Comment? Quelqu'un qui n'a pas eu d'enseignement.
Moi, je pense que c'est plusieurs choses différentes, parce que cette question revient souvent. Quand on est innocent, donc ça dépend de la famille dans laquelle on grandit, et la culture, et la religion que l'entourage a. Et ensuite, c'est à la personne, une fois qu'elle grandit, de faire des recherches. Soit elle suit ce chemin-là, soit il y a des gens qui sont convertis dans notre religion, etc., etc. Mais la foi, ça s'acquiert. Hein. Ça s'acquiert par des recherches. C'est comme quelque chose qui se nourrit, ça se nourrit. Et on acquiert plus ou moins de foi. Vous avez des gens qui ont énormément de foi.
Mais attends, écoute-moi. Est-ce que c'est pas de l'auto-persuasion?
Eh bien si, c'est ça.
L'auto-persuasion, ça veut dire.
Ce qu'on appelle en islam, on appelle ça l'yaqin, la certitude. Le doute existe en islam. Avoir le doute, oui. Ça existe. Mais quand on fait des études islamiques, on apprend aussi avec ce qu'on appelle le tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, on apprend à avoir le yaqin, c'est-à-dire la certitude.
Alors voilà. C'est différent, la certitude et l'auto, comme dit Méziane, tu as parlé de auto-persuasion, n'est-ce pas, Méziane?
Oui, voilà.
Donc, il y a une nuance là, hein. C'est pas pareil du tout. entre la certitude,
oui,
être sûr d'une chose, être sûr, déterminé, on revient pas dessus. Mais l'auto-persuasion, c'est encore autre chose, c'est-à-dire on s'auto-persuade.
En fait, c'est différent. Il y a une nuance, mais ça se ressemble légèrement aussi.
Je sais pas, mais c'est, attends, Naïm, ça me semble différent. Naïm.
Oui, Naïm. Parce que ce qui est sûr pour toi n'est pas sûr pour moi. Tu vois ce
mais
que
attends, Naïm, Naïm.
Ta vérité n'est peut-être pas la vérité
voilà.
de quelqu'un d'autre.
Bah oui, alors,
oui mais attends, Naïm, écoute-moi.
Oui,
écoute-moi.
Alors, oui, attends, il y a mes Yann. Oui, mes Yann.
Naïm, écoute-moi, s'il te plaît. Si tu nais dans une famille aux États-Unis ou en Alaska, au Japon, en Chine, est-ce que tu l'as choisi?
Ah non.
Bon, forcément, si tu nais dans un endroit, tu vas avoir la tendance à avoir, culturellement ou même spirituellement, adopter cette religion-là.
Ben oui. Ça.
Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de révélation. Ça, c'est du formatage. C'est de, comment on appelle ça? C'est de la... comme de la publicité, un peu, voilà. On te dit, voilà, c'est comme ça, et puis toi, tu vas penser toute ta vie que c'est vrai. Et tu vas ailleurs et vont dire, c'est pas comme ça, c'est autrement. Mais voilà, qui a mais raison?
C'est ce que je dis. Après, une fois que la personne évolue, grandit, soit elle recherche, elle s'informe, etc., elle reste dans le domaine, enfin, le milieu dans lequel elle a grandi, soit elle découvre d'autres horizons.
Oui, mais en général, les gens restent.
Alors, attends.
Je vois mal, par exemple.
À partir du moment où tu cherches, ça veut dire que tu veux savoir, mais en même temps, c'est la raison qui fonctionne, c'est plus la foi. Tu fais de l'analyse par la raison. Tu analyses les textes.
Puisqu'on cherche, entre guillemets, la vérité. On cherche d'autres choses. On cherche.
Oui, mais quand il cherche à savoir, comme un enquêteur, il cherche, c'est par la raison. C'est pas la foi qui le conduit. C'est la raison qui le fait choisir ceci ou cela.
Il est guidé par la raison.
Est-ce que la foi.
Par la raison.
La foi, c'est une chose, la raison, c'en est une autre.
Mais Yann, il peut être guidé par la raison et il peut être guidé par la foi. Il y a des gens qui te disent, je me suis converti à l'islam, j'ai toujours eu la foi toute ma vie, j'étais chrétien ou autre, j'ai toujours eu la foi, j'ai cru en Dieu, mais j'étais pas convaincu de ça. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé, etc., etc. Donc la foi aussi peut diriger.
On croit mais alors attends, est-ce que la foi, est-ce qu'elle a besoin de la raison ou la foi seule suffit?
La foi a besoin de la raison, puisque en islam, l'islam est une religion de logique, c'est très logique. Les gens qui comprennent ces choses, l'islam c'est très simple et très logique. C'est une question de raison aussi. Voilà,
je pense qu'il y a aussi, oui, il y a de la raison aussi, parce que, Béziane, parce que toi tu fais une distinction entre la raison et la foi. On peut raisonner avec la foi, avec la croyance. C'est-à-dire avoir trouvé son chemin, tu parlais d'être guidé. On peut être guidé par la raison et avoir trouvé, disons, une raison de vivre dans la religion. Tu as des gens qui trouvent une raison de vivre dans la religion. Et tout à l'heure, tu dis quand on est dans une famille, tiens, il y a quelque chose qui m'interpelle. Tout à l'heure, j'en parlais justement avec mes collègues, avec Bilal et tout. Il se trouve que dans la famille, j'ai un neveu qui est de père, qui est chrétien, qui n'est pas musulman. Et dont la mère est forcément musulmane. Et le garçon, l'enfant grandit, tout ça. Aujourd'hui, il a 17 ou 18 ans, enfin, quelque chose comme ça. Et cet enfant, eh bien, aujourd'hui, à 17 ans, il dit à sa mère, tu vois, je crois 18 ans cette année. Il a fait un chemin. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne lui parle de quoi que ce soit. Tu vois, on l'a pas guidé dans une religion
c'est la recherche
spécifique, voilà, exactement. Bon, nous on est musulmans, ils nous voient, mais bon, pas ultra pratiquants, mais on l'est. Donc les enfants posent des questions, on leur répond, et on a tous des Corans à la maison.
On appelle l'islam par héritage,
voilà, exactement. Et puis on a tous en tant que musulmans des Corans à la maison, on en a au moins deux ou trois, c'est comme ça. Et donc bien sûr traduit en français, qu'il soit en arabe, qu'on lit pas l'arabe, il est en français. Donc les enfants ont accès. Et des fois, ils posent des questions, on leur répond, on dit voilà, etc. Mais sans plus, sans faire de prêche du tout, parce qu'on est vraiment pas calé. Il se trouve que ce neveu, eh bien, cette année, décide de faire Ramadan. Tout à l'heure, j'ai eu donc sa maman qui est très 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 proche de moi au téléphone et qui me dit, bah tiens, aujourd'hui, il a fait ramasser. Je dis, ah bon, tiens, bah c'est bien, c'est marrant, c'est fou. Comment c'est venu tout ça? Ah non, mais tout ça, il a décidé, il a dit, je fais ramadan. Voilà, c'est comme ça, il a choisi sa voie. Son père est chrétien, mais lui, chrétien, pas pratiquant, mais chrétien. Donc il a dit, moi je choisis, alors que sa mère, qui est très très proche de moi, qui n'est pas ultra pratiquante, elle est comme moi, mais elle est musulmane. Elle mange pas de porc, elle prend pas d'alcool, tout ça. Enfin, alors il dit, moi j'ai décidé, je suis musulman. Il dit à sa mère, aujourd'hui, en tant que musulman, je fais ramadan, c'est normal, tu comprends. Donc il a décidé sa voie, il a trouvé sa voie, c'est comme ça et pas autrement. Et du coup, c'est pas que c'est étonnant, mais c'est que c'est sa raison à lui. C'est un enfant qui
est.
C'est un enfant. Méziane, il y a personne pour l'influencer. Je te dis, dans ma famille, c'est très proche. C'est mon neveu, tu vois, c'est fils de ma sœur. Vous l'avez deviné. On n'est pas du tout ultra pratiquant. Je veux dire, on pratique, on fait ramadan, mais on fait pas grand chose. En vérité, on parle pas tout le temps de religion et tout. Mais cet enfant a décidé, alors que son père est chrétien, il a décidé de lui-même de faire ramadan. Pour lui, c'est quelque chose de très important. Il se sent musulman. Il a dit, je suis musulman. C'est comme ça. Son père lui a dit, c'est très bien. C'est ton choix. Tu as choisi. C'est bien. Son père est dans une ouverture. Hein. C'est très bien. T'as choisi. C'est ton choix personnel. C'est bien. Bravo. Il dit, ah oui, je me sens musulman. Et c'est ma religion. Et c'est, tu vois, il est encore plus pratiquant que nous. Tu vois, c'est lui qui a choisi sa voie. Il a un petit camarade, parce que il est très brillant à l'école, très 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 brillant. Il a un camarade qui est aussi brillant que lui et qui est français, des deux parents et chrétien, et qui lui a dit, ah ben tiens, je vais essayer de jeûner aussi avec toi. Ils sont très proches, tu vois. Il lui dit, je vais jeûner aussi avec toi, pourquoi pas et tout, tu vois. Voilà. Enfin, on peut pas dire qu'ils sont décérébrés, ces enfants, que ça vient, voilà, il y a un effet de mimétisme. Il n'y a personne qui les a poussés. Le père n'est pas du tout musulman, mais c'est son choix, lui. Voilà, il s'est senti plus musulman que de l'autre côté. C'est comme ça. Voilà. Ça va déplaire à Z. Hein. Alors, 01-53-48-3000, on a une petite pause. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 23h, 1h, Confidence avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01-53-48-3000, voilà, chers amis. C'est vrai que moi, je pensais comme toi, Méziane, en 10 ans, j'ai toujours dit, hein, vous m'avez entendu même à l'antenne souvent, enfin, parce que moi, je me contredis aussi, et tant mieux que je me contredise, parce que ça voudrait dire que je suis aussi dans une recherche. Parce que si on se contredit pas, c'est dire qu'on cherche rien et qu'on est persuadé, on a la certitude et on est borné. Non, on n'est pas borné. Des fois, on dit une chose et puis après, on change d'avis au fur et à mesure parce qu'on voit d'autres paysages et que, voilà. Eh bien, moi, j'aurais pensé, fut un temps, que quand on est dans une famille musulmane, on est obligé d'être musulman. Quand on est juif, c'est vrai que sortir du judaïsme, c'est très compliqué parce que c'est du lourd, hein, parce que les familles, etc. Donc il y a quelque chose, il y a des socles, vraiment. Sortir de l'islam, c'est à peu près pareil. Mais j'aurais pensé qu'au grand jamais, je veux dire que quelqu'un puisse juste choisir par lui-même. Voilà, c'est parce qu'il y a un socle et c'est comme ça et pas autrement. Bah, à travers mon neveu, je vois que non. Parce qu'il il avait le choix et c'est lui qui a choisi tout seul. Voilà.
Vanessa.
Oui.
Et puis Naïm, moi je vous pose la question, est-ce que s'il n'y avait pas aucune religion, aucune, est-ce que le monde serait pire ou pareil, ou mieux?
Mais non, s'il n'y aurait pas de religion, ce serait le paradis sur Terre.
Ah ben là, il faut enlever les religions. Là.
C'est la logique de la vie.
Le problème, c'est les religions.
Naïm, tu t'es entendu ce que tu as dit? Moi, je pense le contraire de toi, Naïm. Moi, je pense que s'il n'y avait pas...
Le problème, c'est que s'il n'y aurait pas de religion, il n'y aurait pas le péché originel. Et s'il n'y aurait pas le péché originel, il n'y aurait pas eu de prophète. Donc, pas de prophétie, pas de révélation.
Tu parles du péché originel.
Non, il parle d'un, mais lui, Méziane, dit tout simplement... Bah, s'il n'y avait pas de religion, qu'est-ce que ça serait? Moi, je pense
Est-ce que l'homme serait pire ou meilleur?
Moi, je pense qu'il serait pire.
Ou pareil?
Moi, je pense qu'il serait pire.
Ah ouais, mais je pense que l'homme...
Ce serait une catastrophe.
Alors là, bonne question.
Ce serait une catastrophe.
D'un point de vue plus philosophique, il serait plus tordu que maintenant, je crois.
Ah, ce serait une catastrophe.
Comment tu expliques qu'il y a des gens de religion qui sont mauvais, alors qu'ils font la religion, et des gens qui sont athées et qui sont bons. Ça veut dire que le critère religieux n'est pas forcément une garantie.
Mais c'est pas ça. Lysiane.
Mais c'est pas.
Ça reste des hommes. Les hommes
religieux, c'est pas un tampon de garantie, hein, parce que sinon,
voilà.
Les chèvres, c'est comme l'histoire de la barbe. Hein. Sinon, les chèvres en première rentreront au paradis. Hein.
Mais
c'est exactement pareil.
Non, mais c'est pas ça. Mais Yann, pour être logique, un être humain, je veux dire, c'est pas la religion forcément qui guide son tempérament, ses pulsions, etc. La religion, c'est une chose, c'est une foi. On croit ou on croit pas. Si on croit, on est dans la croyance. Mais si tu as des personnes qui ont des pulsions, regarde, tu as bien des prêtres, on le sait. T'as des curés quand même qui ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont touché à des enfants et tout. Il y a des scandales dans l'Église. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout simplement, il y a des gens qui ne savent pas maîtriser leurs pulsions. Et même s'ils savent que il y a un Dieu, etc., et que c'est péché ce qu'ils font, que c'est grave, mais ils n'arrivent pas à. Peut-être qu'après, ils ont une ce qu'on appelle une conscience qui est chargée. Peut-être ils s'en veulent, ces gens-là, tu vois. Mais il y en a même qui mettent fin à leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à retenir le pulsion.
C'est des hommes.
Mais c'est alors, des humains, voilà, c'est ça.
Alors justement, si on prenait un imam, un rabbin et un curé, et qu'on les met sur une île.
Et après ?
Pendant 10 ans.
Et après ?
Est-ce que tu crois qu'il y en a un qui va convertir l'autre ?
Pourquoi ?
Non, mais qu'est-ce qui peut se passer ?
Bah, un rabbin, il restera rabbin, le curé restera curé, et l'imam restera imam. Mais est-ce qu'ils vont
s'entendre ?
Moi, je pense qu'ils s'entendraient bien.
Oui.
Ils s'entendent, chacun mais dans sa foi.
Est-ce que les questions que tu poses, tu les notes avant d'appeler ?
Non. Parce que je note rien, moi.
C'est des questions existentielles, ça peut. Bon, Méziane, il a de l'imagination, c'est un grand enfant.
Je suis un peu dans la folie, moi, tu sais.
Mais c'est bien, c'est une folie douce.
Tu sais que moi, j'aime bien écouter, tu sais qui ? Michel Onfray.
J'aimais bien à un moment donné, puis j'aime moins depuis un certain temps.
Non, mais là, c'est des faux aussi.
Non, mais j'aime moins depuis un certain temps. Avant, j'aimais bien.
Il y a un développement intellectuel.
Avant, j'aimais bien, mais bon, depuis un certain temps, je crois qu'il
est contre les religions, lui, de toute façon.
Non, mais c'est une question, enfin, sa politique un peu droite.
Il est un peu à droite.
Même plus que ça, enfin, bref. Mais il a changé, je trouve. Avant, j'aimais bien, la vérité. Honnêtement, j'écoutais.
Il a une université, hein.
Ouais, il peut, hein. Mais
les amis, je vais vous dire bonne soirée parce que je conduis.
Ah, vas-y. Ah,
bonne soirée, Naïm.
À bientôt. Sahaf Torek. Toi aussi.
Inch'Allah.
Bisous.
Ah, j'étais content de parler avec Naïm.
Ah oui. Alors,
un brave gars.
Ouais. Ben, Naïm, oui.
Naïm,
oui, qui est adorable, de Toulouse. Alors, tu parlais de curé et de prêtre et de rabbin sur une île. Et tu disais qu'il se bagarrait. Non, pas plus que les gens sur Terre. Tout dépend de la mentalité et du tempérament des uns, de chacun d'entre
eux. Non, mais ce qui veut dire par là que la religion, c'est pas une garantie.
C'est pas que la religion n'est pas une garantie. La religion, c'est pas un remède, c'est pas un médicament.
Eh oui.
Ah, c'est pas un médicament, la religion. La religion, c'est une foi qui te traverse, ou tu l'as ou tu l'as pas.
Non, à mon avis, c'est une béquille.
Pour certains, peut-être.
Pour s'appuyer, tu sais, parce que la vie, elle est compliquée, et en même temps, on se pose la question de l'au-delà. Donc, quand on a la foi, cette question-là ne nous hante plus, puisque on se dit, d'après les religions, il y a une suite, il y a une éternité après. Donc, ça nous apaise.
Pas toujours, mais Yann, regarde les gens qui commettent des choses graves. Et ils ont la foi, pourtant, pour certains. Ils ont la foi, dans une religion ou dans une autre, peu importe. Ils ont la foi, ça les empêche pas quand même d'enfreindre des frontières, des limites, tu vois. Il y en a qui font des crimes,
non,
tout
non,
ça.
Non, mais le fait d'être apaisé, l'apaisement, si tu veux, parce que nous, on sait qu'on est mortel.
Oui.
Mais est-ce qu'une fois qu'on est mort, la question est fondamentale.
Oui.
Est-ce que c'est la fin de tout? Et où est-ce qu'il y a autre chose? Et à partir du moment où on a la foi, on se pose plus cette question. Donc on est tranquille, on est apaisé.
Ça dépend. Tu as des gens
quand on meurt, on se dit c'est pas la fin, c'est la fin d'une chose, mais c'est le début d'autre chose.
Peut-être, mais les personnes qui ont une conscience chargée qui ont fait du mal à autrui, je pense qu'ils partent pas apaisés, même avec la foi.
Ah, c'est autre chose. Hein, oui, mais en même temps.
Ah oui. Mais
ça, c'est autre chose.
Mais Méziane, tu as des personnes athées qui partent sereines aussi. Ça ne veut rien dire. Tout dépend du tempérament des personnes. T'as des personnes croyantes.
Regarde,
t'as des gens croyants. Ils ont du mal à partir. Ils s'accrochent à la vie.
Alors la question, est-ce que comment les gens voudraient mourir? Est-ce qu'ils voudraient mourir en disant j'ai fait tout ce que j'avais à faire ou je n'ai pas envie de mourir tant que je n'ai pas fait ce que j'avais à faire? C'est l'accomplissement.
Mais oui, tous on voudrait mourir après avoir accompli des choses, surtout quand on a des enfants. On voudrait les voir grandir, on veut voir les petits-enfants, on veut voir, tu vois, c'est normal, Méziane. Donc on a des choses à accomplir, on veut pas laisser les enfants.
Parce que mourir en se disant, voilà, j'ai un goût d'inachevé.
Mais toujours inachevé.
J'ai pas tout dit, mon dernier mot.
Mais toujours.
Et on part avec un petit remords quand même.
Mais Méziane, on partira toujours avec de l'inachevé. Parce qu'on n'accomplira jamais rien. C'est pas vrai. Personne n'accomplit rien.
Mais d'ailleurs,
attends, on est tous des Ulysse,
on se dit, est-ce que le fait de se retrouver de l'autre côté, est-ce qu'on peut se dire, tu as vu, toi qui te posais les questions, maintenant, regarde, on est là, oui. Regarde comment on est bien.
Attends, on va prendre un rôle avec nous parce que tu délires là. Tu délires complètement, regarde comme on est bien.
Ah ben, vu l'heure qu'il est. Hein.
Ben, on est bien là ensemble. Oui. Déjà, on a un avant-goût du paradis. Bonsoir, alors on a Harold qui nous appelle du 78. Bonsoir Harold.
Bonsoir Schwarzenegger.
Non.
Salut.
Harold, elle est où?
Salut, bon ramadan à tous.
Merci.
Ramadan à toi.
Méziane, j'ai envie de lui dire, elle est où Maud? Parce que je sais pas si c'est ta génération. Harold et Maud, mais ça c'était une pièce.
Je connais pas.
Ah, tu peux pas connaître, c'est pas ta génération.
Non, c'est Schwarzenegger.
Non, Harold et Maud, moi je me suis arrêtée. Alors, tu nous appelles du 78. Ben écoute, merci pour tes bons souhaits.
C'est la première fois que je vous appelle. Je vous écoute tout le temps, mais des fois j'ai fait le numéro, puis j'osais pas, puis j'ai dit, allez, là je vais.
Mais il faut oser, surtout quand il y a Méziane là, avec son
bienvenue au
ses
club.
Délires.
Bienvenue au
on
club.
On va te faire une carte de membre, t'inquiète pas.
Plus on est fou, plus on rigole.
qu'est-ce que tu penses des questions de Méziane? Je suis sûr qu'il t'a entendu, il a appelé Harold, il s'est dit
attention.
Moi en fait, je voulais réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Surtout toi Vanessa, parce que moi justement c'est mon cas.
Oui.
Moi on est dans une famille, on est beaucoup mélangé chez nous, parce que voilà, il y a des Tunisiens, Marocains, Ivoiriens, Antillais, on est
c'est
vraiment
génial,
une famille et tout.
Ouais.
Et moi, ben, c'est mon cas, c'est vrai que j'ai choisi, pourtant j'étais chrétien mais non pratiquant par ma famille. Et ben, je me suis retrouvé à faire le ramadan par mon choix. Je m'intéresse, j'ai envie de. Je connais pas tout, mais j'essaye d'apprendre.
Par toi-même?
Par moi-même,
sans
voilà.
Sans que personne t'influence.
Alors que mon père était chrétien et puis ma mère était chrétienne des Antilles.
Ouais. Ouais, c'était ton choix.
Moi, j'ai choisi. C'est vrai que ça fait 4 ans que je l'ai pas fait. Cette année, ben, j'ai décidé de le refaire. Je l'avais déjà fait il y a longtemps.
Et que pensent tes parents, ta famille?
Ben, moi, ils m'ont dit si c'est mon choix.
Ben oui.
C'est vrai que mon père, c'est vrai qu'il était dur, c'était autre chose. Mais sinon, le reste, c'était si c'est mon choix.
C'est ton choix.
C'est mon choix, ouais, ils disent.
Oui, parce qu'il y a des mélanges dans ta famille, enfin, agrandie, hein, je dis bien, parce que tes parents, tous les deux, sont chrétiens. Mais comme dans la famille agrandie, je pense, par les mariages, hein, n'est-ce pas?
Ouais, les donc, mariages, voilà. Alors, il y a un petit peu de tout. C'est la planète.
Et comment tu arrives à ça? Tu t'es beaucoup renseigné? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, en fait, j'ai ma grande sœur qui s'était mariée avec un Tunisien qui a eu des enfants.
Oui.
Et comme j'étais proche de mes neveux, je voyais que mes neveux, eux, ils connaissent bien, parce qu'ils font depuis tout petit, alors ils ont appris, ils parlent arabe, tout ça, les prières, tout. Et moi, je me suis dit, je veux le faire aussi. J'ai dit, si.
D'accord, mais tu as essayé quand même de connaître avant? De savoir.
J'ai des livres, j'ai des livres. Ouais, j'ai demandé
voilà,
des livres
renseigner.
Pour me bouquiner.
Dans la religion,
on apprend toujours un petit peu chaque jour.
Harold.
Ouais.
Oui. Dans la religion chrétienne, il y a quelque chose qui t'a déplu ou pour dire je veux changer de religion?
Moi, en fait, comme j'ai dit, j'ai jamais été pratiquant. C'est ma famille, mais moi, j'ai grandi.
Oui, non, mais maintenant, le fait que tu aies choisi d'être musulman, c'est bien, hein, mais tu aurais pu choisir une autre religion, même bouddhiste, je m'en fous, moi. Ouais. Je ne juge pas. Hein. Mmh. Moi, je suis un agnostique, donc je n'ai pas de religion particulière. Culturellement, je suis musulman, mais dans mon fond propre, je suis un humain, comme n'importe quel autre humain, et je m'en fous que je sois musulman, juif, bouddhiste ou athée, j'en ai rien à foutre. Donc, mais la question que je me pose, c'est que toi, tu as décidé de choisir l'islam parce que tu as trouvé tes neveux sympas, agréables, ou ton beau-frère. Est-ce que c'est la religion ou c'est les personnes? Parce que c'est des gens sympas, tu dis, bon, ben, je vais me mettre dans la même religion qu'eux.
Alors, ça, au début, c'est vrai que je voulais faire pareil. Je faisais le ramadan, parce que voilà.
Oui, mais il y a du mimétisme.
Ouais, j'ai voulu copier. Puis après, c'est vrai que je me suis posé la question. J'ai dit, faut que j'aille plus loin. Faut que j'essaye de connaître en lisant. Parce que moi, je préférais lire les livres que regarder sur Internet, tout ça. Je préfère lire.
Non, mais j'ai bien compris. Mais par exemple, si ta sœur s'était mariée avec un bouddhiste.
Ouais.
Et il aurait été sympa. Peut-être que tu serais devenu bouddhiste aussi.
Je peux pas dire. Je sais pas.
Bah, il est pas bouddhiste.
Peut-être.
Il est pas bouddhiste. Il y a des questions,
mais
si ta soeur était martienne, bah écoute. Hein.
Regarde, Vanessa, elle est martienne. Vanessa, elle est martienne.
Ah bah oui. Bah, voilà.
Elle est devenue terrienne d'un coup.
Ah oui, bah oui.
Mais moi, en fait, ça s'est fait comme ça, en fait.
Oui, ça s'est fait comme ça. En fait, au début, voilà. Moi, j'ai compris ce que tu veux dire, Harold. Au début, tu as un petit peu voulu faire pareil pour essayer, pour voir ce que c'est, quoi, hein, pour découvrir.
Et après,
tu m'as dit, j'ai lu tout ça, et puis après, tu t'es intéressé davantage, tu t'es peut-être informé aussi, je sais pas. Enfin,
on en apprend toujours un petit peu à chaque fois. Quoi.
Voilà, Vanessa. Oui, dis-moi.
Moi, je pense que on a une influence, forcément, surtout si les gens sont sympas.
À la base, bien sûr, mais bon.
On est influencé.
Et puis c'est vrai que où j'habite, je sais pas si vous connaissez, je suis dans le 78 au Mureau. C'est vrai que tous mes amis.
Ah, je connais les Mureaux.
Ouais, j'ai grandi dans ça, c'est pour ça.
Oui, voilà, parce que tu étais dans un climat, une ambiance, forcément, donc il y a une influence. Oui, il y a une influence. Mais moi, je pense que.
C'est quand même mon choix.
Mais oui,
non,
mais tu te serais trouvé en, je sais pas moi, en Sibérie, hein? Peut-être t'aurais été, tu sais, la religion, tu sais, des chamans.
Peut-être, non.
Ben oui, mais évidemment.
En fait, tu prends en fonction de la sympathie que tu trouves autour de toi.
Ben oui, il y a toujours une influence, c'est obligé.
Oui, donc il y avait une influence que comme
donc,
j'ai dit.
Donc le libre arbitre, il est limité. On est tous influençables. Hein.
Mais regarde par exemple les aborigènes, que ce soit en Australie ou ailleurs, eh bien qui ne connaissent pas, qui vivent. Tu sais les gens qui vivent dans la forêt, Méziane.
Oui.
On voit des reportages. Aujourd'hui, malheureusement, bon, la civilisation, elle pousse, on abat les forêts. Mais t'en as encore des récalcitrants, des résistants, quoi. Eh bien, qui vivent dans les forêts, qui vivent vraiment de la forêt, qui croient au dieu des vents, des éléments, etc.
Des éléments.
Voilà, du feu, tout ça. Bah, ces personnes-là, ils ne savent même pas. Ils sont loin, aux antipodes, de savoir que l'islam ou le judaïsme ou d'autres religions existent. Ils sont, voilà.
Oui, oui, oui.
Pour eux, ils ont leur propre religion. Voilà.
Oui, leur croyance. Croyance
ou religion.
Mais même en Afrique, ce qu'on appelle les animistes. Les animistes.
On va prendre Ouda avec nous, une femme. Allez. Bonsoir, Ouda.
Oui, bonjour.
De Paris. Bonsoir, bienvenue, Ouda.
Bonsoir.
Oui, moi, je n'étais pas d'accord. Je me disais, non, là, c'est pas une influence, c'est pas l'influence. Parce que bon, certes, on est influencé partout. Surtout aujourd'hui, avec la mondialisation, avec tout, on est influencé partout. Avec Internet, on peut être influencé partout.
Mm-hmm.
Mais c'est comme tomber amoureux, en fait. Quand on a des critères de beauté, qu'on vit dans un pays, eh ben, on va forcément peut-être tomber amoureux d'un critère auquel on n'est pas du tout habitué, en fait. Je sais pas, par exemple, on a vécu dans une famille arabe, on a toujours vu nos proches se marier avec des personnes arabes. Et ben, nous, on va rencontrer, je sais pas, une personne d'un autre type, et on va se dire, ah bah tiens, je suis amoureuse de cette personne, je peux pas l'expliquer. Nos deux, nos deux cœurs se sont rejoints et puis on tombe amoureux. Et puis je pense que la religion, c'est vraiment intime, c'est spirituel. La spiritualité, c'est quelque chose de très, très important. En fait, c'est la chose avec laquelle on a besoin de vivre. Même les animaux, les plantes, l'eau, en fait, a besoin de vivre avec ça. Et ça s'explique pas. On ne peut pas se dire, bah, je vais influencer. Regardez, il y a le nombre de personnes qui essayent d'endoctriner certaines personnes ou d'essayer de convertir des gens. Mmh. Ça ne fonctionne pas. Pourtant, on peut avoir toute la recette, mais ça ne va pas fonctionner. Forcément, parce que c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas une équation qu'on peut résoudre. C'est spirituel, la religion nous a choisi, on l'a choisi. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu choisit les personnes qu'il aime.
Est-ce que toi, tu es né dans une religion? Tu es né dans une famille musulmane?
Oui, oui, moi je suis née dans une famille musulmane. Mes parents sont musulmans tous les deux, sauf que mes parents étaient très jeunes quand ils se sont rencontrés. Mmh. Ils n'ont pas reçu de bonne éducation musulmane, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment reçu une éducation sans alphabet tous les deux. Et ils ont essayé de faire de leur mieux. Ils ont en plus, ils sont venus dans les années 70 en France. Donc, ils ont essayé de s'intégrer au mieux. Donc, pas de voile. Ils faisaient leur prière de manière intime chez eux.
Oui, mais quand tu dis, excuse-moi de t'interrompre, mais quand tu dis pas de voile, bon, c'est, la religion, on n'a pas besoin de tout connaître. Enfin, c'est basique, la religion. On sait ce qui est interdit, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Enfin, on sait. Mais par contre, Ouda, quand tu parles, parce que je t'écoute parler, ok? Non, mais c'est vrai qu'il faut, on est toujours dans la recherche et c'est très bien, faut pousser, faut comprendre, etc. L'esprit est curieux, l'esprit humain est comme ça, savoir un petit peu pourquoi. Le pourquoi du comment. Mais par contre, là où, mon oreille a fait tilt, c'est quand t'as dit, par exemple, mais nos parents savaient pas, mais en vérité, le voile était. Mais le voile, qu'est-ce qu'il vient faire dans le descriptif religieux? Qu'est-ce qu'il a à voir avec la religion? Moi, je suis pas voilée, je suis musulmane. Je veux dire, le voile n'est pas une obligation musulmane, justement. Parce que le voile existe. Oui, le voile était déjà chez la femme juive qui se couvre les cheveux. La Sainte Vierge, on voit qu'elle se couvre les cheveux. Je veux dire, et quand on sait comment que ça se passait à l'époque, le voile, pourquoi, qui était voilé au 7e siècle, quelles étaient les femmes voilées? J'ai pas envie de le dire, parce qu'il y a des imams pour ça, voilà. Ouais, mais quand on sait quelles étaient les femmes qui étaient voilées, je veux dire, c'était pas les femmes du peuple, et on sait le pourquoi du comment. Donc c'est pas une obligation. Vas-y.
Les filles.
Vas-y.
Et comment il s'appelle le garçon, là?
Oui,
les filles et le garçon. Je crois que l'histoire de voile, pas voile, tout ça, je crois que c'est, si tu veux, c'est des, ce qu'on appelle des rituels. Dieu, il n'en a rien à faire. Que tu sois voilé ou à poil. Le moment que tu fais des bonnes actions dans ta vie.
À poil quand même.
C'est
un minimum.
Quand j'ai parlé de voile.
Oui, alors on va laisser Ouda nous expliquer ce qu'elle voulait dire.
On est d'accord qu'en France, quand on voit aujourd'hui une voilée, donc je parle même pas de science poussée, etc. Vraiment, la chose la plus basique, quand on voit une voilée, surtout dans notre contexte actuel, etc., ou même à l'époque, on la catégorise tout de suite parce qu'on reconnaît le voile islamique.
Non, mais ça, tu as raison, ça, je suis d'accord. Okay, c'est vrai
ça, on passe. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de ça, parce qu'ils ne voulaient pas se catégoriser en tant que tel, parce qu'on va pas fermer les yeux sur le fait que aujourd'hui, on sait reconnaître un voile islamique ou pas du tout. Parce que moi, à l'époque, j'étais à un moment voilée. Je peux vous dire que quand je marchais dans la rue, des, entre guillemets, sœurs voilées, je dis bien entre guillemets parce que elles me disaient salam alaikum, alors que d'habitude, aujourd'hui, je n'ai plus le voile.
Elle te dit pas bonjour. Ça fait très sectaire, ça fait secte.
Non, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance.
Non, mais ça fait très secte.
On se reconnaît entre nous.
Ben voilà, mais c'est dommage.
On fait partie du même.
Ouais, mais elle a raison, Ouda.
Non, mais on dit qui.
Non, mais attends. Elle a raison, Ouda. Parce qu'en vérité, c'est pas fait de bonne foi, de bon cœur. Parce que de bon cœur, tu dis bonjour à tout le monde. Tu croises n'importe qui. Tu croises une femme, qu'elle soit juive, qu'elle soit tout ce que tu veux. Tu dis bonjour parce que c'est un être humain. Et tu dis bonjour à l'être humain. C'est terrible, hein. Elle a raison, Ouda. C'est bien ton témoignage, hein.
Est-ce que tu sais ce que c'est, les moutons de Panurge?
Oui.
Bon. Ben, parce que on est des animaux et on veut se copier et par mimétisme, comme Harold a dit, et c'est du mimétisme. Ce n'est pas de la foi, ça. Ça s'appelle mimétisme.
On peut pas dire que ce que lui il a dit, c'est pas la foi, ça n'a rien à voir. En fait, on a beau même imiter des gens, on va pas, quand c'est une question d'amour, quand c'est une question de spiritualité, quelque chose qui est pas palpable, même la science, hein, parce que on peut mettre un élève, une personne dans une classe et on lui dit, bah, tu apprends ça, parce que aujourd'hui, tout le monde apprend ça, tout le monde est assidu, tout le monde apprend ça, et lui, il va rien retenir. Parce qu'il a pas envie, il est pas intéressé, puisqu'on est des êtres humains. On est des êtres sensoriels, on ressent les
choses. C'est vrai, je suis d'accord avec toi.
On n'est pas des robots.
Et ben, je suis d'accord avec toi, parce que j'ai cité l'exemple de mon neveu, là. Oui, qui lui, alors vraiment, personne n'a éduqué dans la religion, mais alors vraiment pas du tout. Loin de là. Et donc, et même les écoles qu'il fait, etc., je veux dire, ça n'a rien à voir, mais vraiment. Donc, ce qui fait que, lui, il a fait son choix par lui-même, Méziane, par lui-même. Et ça a remis en question beaucoup de choses, même chez moi, tu vois. Avec réflexion, je me dis, finalement, c'est le cheminement de chacun. Voilà. Oui, Ouda.
Moi, c'est comme. Moi,
Oui.
Non, vas-y, écoute, confiné.
Oui, Ouda.
Non, moi, je voulais dire que c'est vrai qu'il y a eu aussi des moments où j'ai des amis qui m'ont fait oui, mets-toi dans toi, dans cette religion. J'étais pas prêt. C'est que je me suis pas mis tout de suite, malgré qu'il y avait qu'il y avait les gens dans ma famille qui le faisaient et tout. C'est pas venu, même si c'est vrai que je me sens, on peut dire qu'il y a eu un peu dans mon choix, j'ai été un peu influencé, mais pas complètement. Ça a été un choix aussi dans mon cœur, parce que je l'ai pas fait tout de suite. Il m'a fallu des années.
Je pense que t'as, avec, oui, voilà. Et puis, je veux dire, t'as réfléchi.
Il y a eu un petit peu, on va dire qu'il y a eu les deux. C'est vrai que je vais pas mentir, il y a eu un peu j'ai été un peu influencé. Oui.
Par exemple, si demain, je sais pas, là, on va parler d'autre chose, parce que c'est encore quelque chose de sensoriel, tu vois. Je te dis, vas-y, on va traîner que ensemble, toute ma bande de potes, je sais pas, comment expliquer? On aime quelque chose. Et toi, ça t'a jamais intéressé. Mais toi, tu vas pas aimer cette chose-là. Je sais pas, que ce soit une orientation sexuelle, par exemple. On va te dire, bah, tiens, on est tous hétéros ou bien on est tous homo. Bah, ça veut pas forcément dire que ça va t'orienter. T'as quand même ta propre manière de penser. Si tu le deviens, c'est que tu sais que tu l'as été. On peut pas t'influencer. Il y a des gens aujourd'hui qui traînent que avec des personnes hétéros. Et finalement, ils ont une autre orientation. Ils l'ont choisi. C'est eux, c'est leur manière d'être. Et ils sont bien. Par contre, il y en a qui vont traîner avec d'autres, qui vont le devenir, ou pas du tout. En fait, notre cercle d'influence, certes, il va nous influencer vers certaines choses, mais au bout d'un moment, on va se dire, OK, je ne suis pas faite pour ça. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on est jeune, on change de cercle d'amis. Au début de l'année, on va se mettre avec, par exemple, les populaires. Puis après, on ne va pas être influencé forcément. On va se dire, non, ça, ce n'est pas fait pour moi. Je vais aller avec les gens un petit peu plus studieux. Et puis là, on va se sentir à notre place. Pourtant, on n'avait pas forcément été influencé par les studios.
On évolue, on avance.
Voilà, on évolue. Et à un moment, on trouve notre place. Et puis, on peut même être poussé à changer. Moi, c'est je vais vous parler de ma famille tout à l'heure.
Oui.
Qui est pratiquante. Et on est 5 frères et sœurs. Il n'y en a pas un qui pratique l'un comme l'autre. Dans l'ensemble, on est un peu un noyau. Mais chacun a son caractère, sa manière de pratiquer. On discute...
Les filles, je vais vous dire un truc. Par exemple, vous avez une oreille qui est, comment on appelle ça, qui est sensible à une musique. À une musique, pas moi.
Alors, en parlant de musique, là, Méziane, on ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a un son qui doit passer là tout de suite.
Okay, okay.
Je te reprends juste après, ne pars pas, parce que tu as des choses intéressantes à dire aussi. Ouda, tu pars pas, Ouda. On va rester avec Méziane, Ouda et Harold. C'est important. On a Mohamed aussi de Saint-Étienne. Et là, eh bien, écoutez une chanson que je vous ai concoctée. C'est une chanson qui passe bien, je dirais, pour une première veillée du mois de Ramadan. Allez, bonne écoute, à tout de suite.
23h, 1h, Confidence avec Vanessa sur Beurre FM.
Eh bien, l'ambiance veillée du mois de Ramadan qui a débuté aujourd'hui pour la première veillée chez El Tlayani. De Abdelkader Chaou, bien sûr qu'on aime. Voilà, j'espère que vous avez aimé. J'ai reçu plein de messages là en privé sur Facebook. Tout le monde est content. Hein. Merci Vanessa pour ça. Déjà, je me suis fait plaisir à moi pour vous tout vous dire. Hein, vraiment. Déjà, je me suis fait plaisir parce que j'adore déjà Abdelkader Chaou. J'adore cette chanson. Voilà. Et puis, j'ai pas pu me retenir parce qu'à la fin, elle se termine avec de la cadence. Hein, taf, taf, taf.
En youyou.
Et je me suis mise à danser comme une malade. et comment, notre ami Anthony, qui fait office aussi de caméraman, qui est venu et qui m'a filmé. Et là,
c'était caliente, hein.
Ah ouais, grave. C'était super. Voilà.
On s'est croisé en Espagne.
Ouais, je vais la mettre sur, sur Facebook. Allez, on reprend avec, avec le délirant Méziane, Houda. Houda qui est la sage, Houda. Voilà. Et Harold. Houda, tu es toujours là?
Oui.
Formidable. Est-ce que vous avez aimé cette, cette chanson? Vous avez aimé?
C'est formidable.
Pour le premier jour du Ramadan.
Ah, merci.
Elle est bien, elle est belle, elle est belle.
Merci.
Justement, à propos de musique, là, est-ce que vous êtes influencé de méditer avec, par musique, c'est-à-dire de faire appel à votre spiritualité, tout simplement par de la musique? Par exemple, si vous rentrez dans une église, ou dans un endroit, bah, par exemple, moi je suis allé écouter des orchestres de musique classique à Saint-Eustache, à l'église des Halles.
Oui, c'est... elle est belle cette église. Hein.
Ah oui, oui, oui.
J'adore, oui. Et puis elle est...
Il y a souvent des concerts, souvent.
Oui.
Mais moi je suis emballé, mais je n'ai pas de mots suffisamment, je n'ai pas le vocabulaire
de quoi spécifique.
Je ne suis pas cultivé dans la musique, mais j'apprécie. Les musiques, ça me transporte. Et d'un point de vue spirituel, je ne parle pas des musiques de supermarché. Je parle des musiques vraiment, tu sais, qui touchent l'âme, tu vois. Ça nous transporte, ça nous emmène très loin. Et l'imaginaire, il va très loin. Mmh. Et ça dépasse toutes les religions.
J'ai rien retenu. Hein. Je ne sais pas ce que, où tu veux en venir. Je ne sais pas, tu as compris quelque chose, toi, Houda ?
Si, moi, j'ai compris.
Non, en fait, je veux dire, Méziane, j'essaie de comprendre, d'être ouverte à tout. Ouais. Mais en vrai, la religion, ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir comme étant une finalité ou. Ce n'est pas quelque chose qui va décider tout. Parce que tout à l'heure, je t'entendais dire un rabbin, un prêtre, etc., sur une île.
Ouais.
Mais la religion, ça ne fait pas de toi une personne, c'est quelque chose qui t'accompagne dans la vie.
Ah, bien.
Et j'ai mon neveu qui était petit, vas-y, je parlais de ton neveu, ça m'a touché.
Ah, oui.
Mon neveu qui était petit et qui me posait toujours des questions pour la religion parce que je dormais dans la même pièce.
Ouais.
Et qui me disait, qui me posait des questions pour ne pas dormir. Alors moi, je lui répondais. Hein, et il me disait, c'est quoi la religion, c'est quoi le Coran? Puis je te rappelle quand on t'a envoyé en colonie de vacances, on t'a mis une lettre. Maman, elle t'a dit, tu te brosseras les dents, tu feras ci, tu feras ça, voilà ce que tu pourras manger, ce que tu peux pas manger parce que t'es allergique, etc. Mmh. Et les amis, tu feras attention aux gens que tu rencontreras, tu seras gentil, etc. Mmh. Et puis les professeurs, tu les respecteras parce que t'es, voilà, etc., etc. Donc des conseils.
Mmh.
Et t'étais bien contente de trouver cette lettre quand t'avais besoin. Quand t'étais tout content, etc., tu regardais pas toute cette lettre-là, mais tu nous as dit que quand tu t'ennuies un petit peu, ou que t'étais un peu triste, ou qu'on te manquait, tu regardais cette lettre. Et en plus, on lui avait laissé plein de petits mots, etc. Mmh. Je dis, le Coran, c'est pareil, Dieu nous a envoyé sur Terre. Et quand on a envie, on peut regarder les récits qu'il nous a laissés. En fait, c'est le Coran. Et si on est concentré, on peut voir entre les lignes qu'est-ce qu'il nous dit, qu'il nous parle, en fait. Il nous dit, sur Terre, vous ne me verrez pas, mais je suis là. Je pense à vous. Voilà ce que vous pouvez faire. Et voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Et je voulais vous en parler tout à l'heure. Une personne qui m'a le plus guidée, moi, dans ma spiritualité, je trouve que c'est une personne qui n'est pas du tout musulmane. Enfin, moi, je suis très attachée à ma foi. Et mes parents, moi, ils ne m'ont pas vraiment inculqué une espèce d'obligation ou quoi que ce soit. C'est vraiment, en fait, pour eux, c'est inné, en fait. Et
moi,
je trouvais qu'à l'adolescence, on peut pas grandir avec quelque chose qui est inné. Il faut bien se questionner, surtout moi qui suis curieuse, etc. Sur ma propre personne, pardon, etc.
Bien sûr.
Donc du coup, j'ai effacé un peu tout ce que j'ai appris et essayé de reconstruire parce que je pense qu'il y avait des choses qui étaient pas, c'était pas normal en fait qu'on me demandait de suivre des choses que je trouvais pas logiques. On ne peut pas continuer à suivre quelque chose qui n'est pas logique pour nous, sauf si on est un peu, voilà. Et du coup, une personne qui m'a beaucoup influencée, c'est une... aujourd'hui, elle, je peux même pas la qualifier de youtubeuse. Elle fait des vidéos YouTube parce qu'elle partage avec nous son enseignement.
Mmh.
Et c'est une Canadienne, donc d'origine bolivienne, qui est, je pense, chrétienne. Elle s'étale pas trop sur sa foi. Mais qui, elle dit, pour parler à tout le monde, elle dit l'univers. Moi, pour moi, mon univers, c'est mon Dieu.
Ah, ben tiens, c'est, voilà. C'est exactement mon terme à moi. C'est, voilà. Je parle de l'univers qui est entre exactement. Dieu et nous, quoi. Enfin, ouais.
C'est ça. Ouais. Donc, du coup, moi, je sais personnellement, pour moi, pour ma propre personne, dans ma spiritualité, l'univers prie Dieu. Donc, moi, pour moi, c'est pas l'univers qui fait quelque chose, c'est Dieu. Mais elle, pour être, pour parler à tout le monde, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, elle dit, il y a une force supérieure. Et c'est important d'avancer avec ça. Et c'est elle qui m'a appris, par la méditation, à prier. Quand elle nous dit, le matin, tu dois méditer, tu dois t'organiser, tu dois prendre soin de ton âme, ton corps et ton esprit. Et là, je retrouve une certaine similitude dans l'islam, pour
c'est
ma part.
C'est fou, hein. Ouais, c'est là, vrai.
Dans l'islam. Ouais, c'est vrai que le matin, quand je demande beaucoup de choses à Dieu, si je fais que ma prière du matin, j'ai pas le temps de demander plein de choses. Puis le soir aussi, j'ai pas le temps de me rattraper toute la journée. Donc c'est pour ça que ça a été étalé dans toute la journée. C'est vrai que j'ai souvent envie de demander des choses. Puis après, je vois qu'elle nous montre le yoga. Donc je fais quelques pratiques de yoga avec elle, en suivant son enseignement. Et là, je retrouve certaines pratiques de la prière. Et je dis, ah, donc en fait, c'est pour ça que Dieu nous demande de tourner la tête à gauche, à droite. Donc c'est vraiment que ça débloque les cervicales. C'est pas pour rien. Le fait de mettre la tête au sol, etc. Parce que c'est bon pour la circulation sanguine. Et là, je commence à voir que chaque chose a un sens. Dans ce qu'on m'a appris. Pourtant, certaines choses, on me les a apprises sans vraiment de sens. Même à l'école coranique. On me disait, bah, tu fais ta prière, c'est comme ça, tu te lèves, et puis tu dis salam alaikum, et tu te... Voilà, oui. C'est fini. Mais là, en grandissant, par une autre personne qui n'a rien à voir avec l'islam, j'ai pu comprendre un petit peu mieux ma religion, alors que je suis passée par l'école coranique. Même au Maroc, j'ai suivi un enseignement islamique. Ça m'a pas forcément répondu à toutes mes questions. En fait, je vous ai dit, j'ai dû tout effacer. Et vous parlez d'influence. Moi, j'ai été influencée par une personne qui n'est pas du tout musulmane.
Ah! Ah oui, comment ça? Voilà. Attends, là, je m'y perds. Là.
C'est... Elle est bolivienne.
Influencée, mais dans.
Elle est bolivienne, elle est chrétienne.
Quelle forme d'influence?
Oui, oui, oui.
Mais quelle influence, par exemple?
Bah, par exemple, le fait de respecter son corps, ce qu'on mange. Notre corps, c'est un sanctuaire. Il ne faut pas manger quoi que ce soit de mauvaises choses. Et quand on retrouve ce que Dieu nous dit de manger, pourquoi est-ce qu'il faut manger de la viande halal? Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne consomme pas de viande halal en France, quand je vis en France ou quand je vais en vacances, parce que pour moi, j'estime qu'elle n'est pas forcément bonne. Quand on lit les ingrédients, que j'achète mon jambon, je ne mange pas de porc, parce que le porc...
Tu manges du jambon de poulet, de dinde, de poulet,
etc. Je sais que le porc n'est pas une viande saine, qu'elle n'est pas forcément saine, donc je préfère m'en éloigner, je ne la mange pas du tout.
Aujourd'hui, il n'y a pas trop de viande saine quand tu vois le poulet, des fois. C'est les élevages, en fait. Hein, c'est les élevages intensifs qui font que la viande, quelle qu'elle soit, hein, la vache folle, voilà, on y a eu droit, hein, c'est fou. Hein.
Moi, je vais influencer personne parce que je sais que vous avez beaucoup d'auditeurs, j'influence bien sûr personne, tout le monde, chaque personne est.
Mais on est obligé de manger de la viande parce que c'est. C'est du.
Exactement.
Moi,
je préfère sélectionner une bonne viande. Et encore une fois, que Dieu pardonne, personne. Je préfère sélectionner une bonne viande où je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'additifs. Il y a très peu de sel. Elle a été élevée en plein air.
Bien sûr. Ouais.
Je préfère manger de la viande. Je suis anémique, donc voilà. Si je pouvais ne pas manger de viande, je pense que je n'en mangerais pas.
Ah ouais.
Et puis j'aime ça, surtout. J'aime ça.
Ben oui.
Donc du coup, je ne vais pas la manger halal parce que c'est marqué halal sur le papier. Je sais que Dieu me dit de manger quelque chose de bon. Je préfère m'orienter vers quelque chose qui est bon. Et je dis au nom de Dieu avant de commencer. Mais je vais pas. Elle m'influence dans ce sens-là. Puis après, par exemple, dans la pratique de ma prière ou la communication avec Dieu, elle dit qu'il faut être vraiment connecté avec son âme, en fait. Parce que notre âme, elle est là, on le sait. Même les gens qui ne sont pas croyants et athées, quand je parle avec eux, ils savent qu'il y a quelque chose.
Oui.
Ils savent, on le voit autour de nous. On sait que notre monde.
C'est vrai que quand il y a des personnes athées, ce qu'on dit athées, mais est-ce qu'elles sont réellement athées à 100%? Parce que est-ce qu'elles croient pas quelque part en se disant au fond d'elles, peut-être qu'il y a quelque chose, pas religieux, hein, je parle pas de religion, mais peut-être qu'il se passe quelque chose, comme notre amie Méziane qui se dit agnostique, qui se dit pas athée mais agnostique, mais peut-être que des personnes athées. Je sais pas, mais c'est pas le fait de dire qu'elle croit en quelque chose, parce que croire.
Dans le doute.
Voilà, j'ai pas envie de dire croire, parce que le mot il a connotation religieuse, mais on va dire, c'est même pas une question de doute, Harold. Non, c'est pas ça. Oui, oui. C'est pas une question de doute. Oula. C'est pas une question de doute du tout. C'est une question de, comment? j'ai envie de dire, parce qu'il y a un H devant Harold, alors donc tu m'as mis avec un A. Et comme tu me mets A, je risque de dire des bêtises.
C'est rare les personnes qui disent qu'il y a le H. En général, tout le monde écrit mon nom avec le A.
Eh ben, c'est ce qu'il a fait, notre ami, comment Anthony, il a mis un A, alors que je sais que Harold s'écrit avec un H.
Il y a H, exactement.
Voilà, exactement.
C'est américain, Harold.
Ouais, c'est ça. C'est
et pas forcément de mettre le E à la fin non plus, hein, on n'a pas besoin.
Il n'y a pas de E.
La viande halal. La viande halal.
Oui.
Pourquoi, aussi bien chez les juifs que chez les musulmans, pourquoi est-ce que la bête doit être égorgée? Est-ce que c'est d'un point de vue santé, hygiène?
Peut-être à l'époque, mais Ziane, tu sais que la viande à l'époque ne s'est... Regarde, à l'époque, avant la viande, elle avait... Bah, la viande avait du mal, on avait du mal à trouver la possibilité de pouvoir... Déjà, on séchait la viande. Toutes les viandes, on pouvait les sécher.
Non, mais je parle pas de ça. Je te dis, le fait de
oui,
tuer
justement.
La bête en l'égorgeant.
Bah, il faut, voilà, pour la saigner.
Non, c'est ça, c'est ce qu'elle commence à dire, Vanessa. Ouais. Là, c'est par rapport au point de vue d'hygiène. On n'a pas les mêmes...
Voilà.
En fait, le monde est...
De toute façon, une fois qu'elle est morte, hein, qu'elle soit égorgée ou pas. Hein.
Non, mais c'est pas ça, Méziane. Il faut recontextualiser. C'est comme le porc. Le porc, avant, était interdit, parce que déjà, le porc, on pouvait pas le conserver. La viande de mouton, tout ce qui est, enfin, les bovins, tout ça, on pouvait les sécher. La viande de chameau, etc. On peut la sécher au soleil en mettant beaucoup de sel, en la salant. Et d'ailleurs, on le fait dans les pays du Maghreb, ce qu'on appelle khlé, ce qui est très, moi j'adore ça, le khlé, etc. Mais la viande de porc, c'était pas possible. Cette technique ne marchait pas sur le porc.
Ah bon?
Ben oui, c'est pour ça que.
Mais aujourd'hui, beaucoup de choses aussi, même pour le porc, puisque c'est un animal qui n'est pas pur. Il peut manger ses propres excréments. Ça
fait... Ah oui.
Eh ben non, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. Non, ben non. Eh ben justement, le porc est l'animal le plus propre, contrairement à ce qu'on pense.
Ah non, il est dégueulasse. Il pue.
Non, mais c'est fou. Non. Vous savez pourquoi? Parce que non, il mange pas jamais. Au contraire, il fait très attention à ce qu'il mange pas de tout ça. Il mange pas ses excréments. Il se roule. Pourquoi il se roule dans la boue? C'est parce qu'il a une peau qui ressemble à la nôtre. Hein. Vous remarquerez d'ailleurs, on est très proche du porc. C'est pour ça qu'on fait des greffes d'organes. Eh bien, pourquoi? Parce que la peau, l'épiderme du porc, eh bien, elle se rapproche de la nôtre. Donc, vous remarquerez, il n'y a pas de poils, tout ça, etc. Elle est très fine. Donc, il est très sensible, aux intempéries, au soleil aussi, aux coups de soleil. Très, 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 très sensible porc. Comme nous, d'ailleurs. Si on était nous, on marchait comme ça, etc.
Le porc,
etc. Attends, mais je t'explique. Alors, donc, ce qui fait que il se roule dans la boue. Il y a peut-être ses excréments, etc., comme vous dites, mais ce bout roule dans la boue, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit cette année. En vérité, c'est pour se protéger avec cette substance pour ne pas attraper de maladies et les effets du soleil, des rayons, le rayonnement du soleil, etc. C'est juste pour ça. Et il faut l'apprendre, ça. Je peux vous assurer que moi aussi j'étais comme vous, fut un temps. Et puis j'ai demandé à des personnes, des médecins, des gens qui connaissent, des vétérinaires, etc. Et j'étais chercher et j'ai trouvé. Et ben c'est ça l'explication. Et non qu'il est pas sale. Le porc est loin d'être sale. Ça c'est dans l'imaginaire et on est en train de faire circuler des informations qui sont complètement erronées. C'est l'un des animaux les plus propres et on le sait pas. Hélas,
quand on mange cette viande aussi,
on tombe pas malade quand on mange du porc. Bah les gens ils mangent du porc dans le monde entier, ils sont pas malades. Même dans les pays pauvres ils ont rien à manger. Regarde en Inde, parce que tout le monde en Inde n'est pas, il y a une minorité musulmane, mais le reste c'est pas des musulmans. T'as des pays en Afrique aussi, ils sont pas musulmans, ils mangent du porc. Et pourtant ils se font même pas vacciner, ils ont pas les moyens. Et ils mangent du porc, ils meurent pas, ils tombent pas comme des mouches. Alors que la grippe aviaire aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, eh bien il y a des volailles qui nous tuent. Voilà, avec les maladies. Il y a eu la vache folle. Il y a des
la grippe porcine.
Oui, parce que c'est par rapport à toutes ces maladies qu'on est en train de ce qu'on leur fait manger. C'est tout, comme le comment on appelle ça, le la vache, etc. Mais le porc n'est pas un animal sale. Il faut arrêter avec ça. Ça c'est une légende urbaine. Mon Dieu, pauvre animal. Moi je le mange pas.
Pourquoi toutes les viandes, même le poulet, c'est quand même
pauvre animal.
ça a quand même monté, mais quand tu trouves la viande de porc, ça, c'est une viande qui reste pas chère, comme ça.
Exactement. On est parti au Japon, il y avait que du porc partout, et on nous expliquait que bah, c'est parce que c'était pas cher, c'était facile d'accès, c'était facile d'élevage, parce qu'ils mangeaient tout, en fait, n'importe quoi. Après, moi, le porc, j'aime beaucoup les animaux. Hein. Je fais pas d'amalgame avec le fait d'aimer les animaux, parce que j'adore les animaux. Pour moi, c'est comme des
enfants, voilà, en
fait,
voilà. Des êtres innocents. Ouais, ouais.
Que je respecte, et quand je les vois, j'ai tellement pitié de... Bah, en fait, c'est difficile pour moi de manger de la viande. Hein. Si on, je pense que si on m'avait pas dit, voilà, t'es anémique, il faut quand même que tu consommes pas mal de viande, etc., et qu'il n'y avait pas trop d'alternatives. Bon, après, je mange pas énormément de viande non plus.
Bah, tu vois, alors... Que, voilà, ça, alors, excusez-moi, hein, parce que j'ai trouvé l'article, hein, voilà, qui cherche, trouve... le cochon, alors écoutez, le cochon n'est pas du tout sale, au contraire, c'est l'animal le plus propre de la ferme. Il adore vivre dans un lieu propre, il ne dort pas à l'endroit où il fait ses besoins. Écoutez bien, sa peau rose, qui est très sensible, a besoin d'être protégée contre les coups de soleil et les piqûres de moustiques, c'est pour cela qu'il se roule dans la boue, c'est ce que je disais. De plus, cette dernière l'aide à s'auto-réguler, car son corps ne comprend pas de glandes sudoripares qui assurent la transpiration. Pourquoi le cochon est l'animal le plus propre? Contrairement à ce que l'on peut croire, le cochon est un animal, l'animal le plus propre. À partir de son 5e jour d'existence, un porcelet ne fait pas ses besoins là où il se couche. Il vérifie toute la propreté d'un endroit avant de s'y installer et ne s'y allonge pas si celui-ci est souillé. Également pour la nourriture, un cochon ne mange jamais à côté de leur toilette. Un cochon qui se roule dans la boue ne signifie pas qu'il est sale. Cette action lui permet de protéger sa peau qui est fragile, voilà, comme je vous l'ai dit, des coups de soleil et des parasites. Il se couvre de boue, justement, pour se rafraîchir également.
Vanessa,
voilà, alors donc, moi je...
Est-ce que tu es déjà allé dans une porcherie? Mais oui, ça sent mauvais,
mais
ça
oui, non, mais Ziane, laisse-moi te répondre. Non, ça c'est les humains, c'est autre chose. Va dans les abattoirs.
Donne, en fait.
Et va, à la raison, Ouda, va dans les abattoirs, tu vas voir comment ils vivent. Ils tuent même des bœufs et des veaux devant leurs congénères qui sont vivants.
Ah oui.
Voilà, et ils vivent dans leurs excréments, les poules.
Mais en fait, les porcs, on leur donne...
Mais
si on leur donne, par exemple, un animal où il y a encore ses excréments à côté, bah, c'est pas de la faute du porc, c'est l'animal. Moi, je sais que même il y a des amis qui promenaient leur chien, parfois, ils étaient obligés de dire à leur chien, non, tu touches pas à ça, c'est une crotte, tu manges.
Mais oui.
Pourtant, le chien, quand on lui donne il va savoir, en fait, il va pas le faire naturellement. Mais si c'est devant lui, il va le manger. Et je sais que c'est par rapport surtout à l'élevage. Et aujourd'hui, la viande halal aussi, excusez-moi, hein, la viande halal, aujourd'hui, on est obligé de chercher des très bonnes boucheries. On en a des très bonnes aussi à côté de chez nous qui vendent la viande halal. Donc quand on achète chez la boucherie qui est bien retenue. Ça reste très cher. Et parce qu'ils font très attention à l'élevage, ils font attention
à la bête. C'est vrai.
Elle ne voit pas l'autre se faire égorger, parce que ça, c'est pas bon de manger une viande qui a été stressée avant de mourir. Ça, c'est pas halal.
Non.
Le rituel, c'est pas juste de dire bismillah, prendre un couteau et l'égorger, ou une machine qui passe et ça l'égorge. Mm-hmm. C'est vraiment prendre soin de la bête, s'excuser limite de la sacrifier.
La respecter. Pas la faire souffrir, c'est vrai.
Il y a un pays, c'est en Inde, où ils sont végétariens.
Il ne sait pas qu'en Inde.
Ils ne mangent pas la vache, en fait. Parce que
non, ils ne mangent pas de la viande. Ils ne mangent pas les animaux. Les animaux, ils ne mangent pas.
Les bouddhistes.
Ah, pardon, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. C'est
quoi. Moi, j'étais dans un restaurant indien, là, dans un quartier où il y a beaucoup d'Indiens, d'ailleurs.
Oui.
Dans un restaurant, ils m'ont dit, ici, on ne fait pas de viande, monsieur. On fait que, c'est que du végétarien.
Ah oui, mais bon, tu as des restaurants végétariens, c'est tout.
Non, mais c'est un restaurant indien.
Oui, indien, mais végétarien. Mais en Inde, on mange de la viande.
Non, mais c'est dans leur religion. C'est leur religion.
Ah oui, non, mais pas tous.
Ils ont plein de religions.
Alors, il y a 39% en Inde de la population qui sont végétariens. Mais pas tous, hein, Méziane. Il y a plusieurs religions. Tu as des végétariens au Mexique.
Oui, il y a plusieurs.
Il y en a partout.
Mais j'avais une question.
Oui.
Je ne sais pas si vous saurez, si quelqu'un saurait me répondre.
Oui, Harold.
Comment ça a commencé le fait dans l'islam qu'ils interdisent le porc, justement, de manger?
Ben, on l'a dit, parce qu'à l'époque, ils se conservaient pas. Mmh. Et d'ailleurs, le porc nous ressemble. Hein.
C'est un des
animaux les plus intelligents, moi je vous le dis.
Il n'y a pas que ça.
Oui, c'est vrai.
Dans l'islam et même chez le judaïsme, il faut que ce soit un ruminant, d'abord. Caractéristique.
Non, ça c'est chez les...
Chez les
juifs. Chez les juifs. Mais non, chez les juifs, les sabots. Il te parle des sabots. Il te dit, le sabot qui est fendu, tu peux pas le manger. Ça c'est chez les juifs. C'est plus compliqué la religion juive, attention. Le sabot, même le poisson, les assiettes, tu peux pas les mélanger avec le lait, la viande. Ils ont des, moi je sais parce que j'ai chez des amis, tu rentres chez eux, t'as des, attends, t'as des assiettes pour la viande, t'as des assiettes pour le lait, ils mélangent pas les deux. Et t'as des poissons qui ne mangent pas parce qu'il y a des poissons à écailles, pas à écailles. Enfin, c'est très compliqué la religion juive. Alors que nous, on mange tous les poissons. Il n'y a pas écaille, pas écaille.
Et on mange du bœuf, on mange du veau. Les animaux. Chez les musulmans, il faut que la bête soit
juste égorgée chez les musulmans, Adam Aken.
Non. Il faut que ce soit un ruminant.
Ben oui, un bœuf, un veau, voilà.
Et il faut qu'il ait le sabot fondu. Le sabot fondu aussi.
Pas du tout. Ça, c'est chez les juifs.
Non, chez les musulmans aussi.
Mais non, chez les musulmans, tu peux manger là. Même du, comment on appelle ça, tu manges du cheval. Tu manges du cheval, tu manges même du chameau. Alors,
il n'y a pas de... Et alors, le chameau, oui, elle mange, oui, le chameau, c'est pareil que le bœuf, hein.
Ben, du chameau, du cheval, tu manges tout. Tu manges pas le chien.
Il y a des restaurants ici en France, il y a des restaurants, ils font du chameau. La viande de chameau.
Ah, peut-être, oui. Avec toi, on saute du coq à l'âne, hein.
Mais
tu remarqueras, Harold, vous remarquerez. On est en train de parler spiritualité. On est en train de parler spiritualité. Et Méziane, il y a des restaurants à Paris. Quatre étoiles, même, gars.
Tu sais que l'âne, moi, déjà mangé de la saucisse d'âne, il y a longtemps. Hein.
Ah, je comprends mieux. Non, mais tu sais que l'âne, c'est l'âne. L'âne, il est très intelligent. Il est plus intelligent que le cheval. Les gens, ils pensent que l'âne. Ouais. L'âne, il est plus intelligent. Pourquoi ? Parce que le cheval, tu le guides, tu lui mets des œillères, il avance. Alors que l'âne, tu peux lui mettre des œillères, tout ce que tu veux. S'il veut pas, il veut pas. Voilà.
L'âne, c'est lui qui décide.
Voilà, mout.
D'ailleurs, il y a de moins en moins d'âne en Algérie, j'ai remarqué.
Ah, voilà, je sais où tu veux en venir.
Pourquoi ?
Il y a une chose aussi que je voulais voir avec Harold.
Oui.
Quand tu parlais du fait que tu as voulu imiter, etc. Quand on veut imiter des choses, déjà, c'est surtout que les choses.
Imiter, un petit peu d'influenceur.
Voilà. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, on est influencé par tout. Surtout qu'aujourd'hui, tout va vite. On a accès à Internet, on a accès à des gens qui sont très différents de nous. Parfois d'ailleurs on nous cible avec des publicités, on se dit mais pourquoi on me cible avec ça, ça m'intéresse pas du tout, et pourtant on change pas d'avis. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui t'a appelé, et nous dans la religion on dit Dieu te choisit, c'est pas forcément toi qui choisis, c'est Dieu qui te choisit. Donc soit il te choisit à ta naissance, enfin, c'est écrit bien sûr, hein, c'est écrit depuis le début, mais oui. Soit il te choisit, c'est-à-dire de naissance dans le sens où tu grandis avec cette influence, ou soit tu t'en écartes et tu reviens, ou soit ça arrive plus tard, même avant, parfois il y a des gens, c'est avant leur mort, hein. Avant leur mort, oui.
Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comme j'ai dit, avant j'étais venu, après je me suis retiré, j'ai réfléchi, parce que je me suis dit, que c'est vrai que j'ai eu du bon et du mauvais.
Mais on sent qu'il y a de la réflexion quand même, Harold. Excuse-moi, Harold, quel âge tu as? Oui. Juste pour savoir ton âge.
Moi?
Oui.
38.
Cette révélation, enfin, tu pratiques depuis combien de temps? Tu avais quel âge? Rapidement,
je suis
arrivé à
ça. Ça fait à peu près 10 ans, on va dire.
10 ans, d'accord.
Je suis revenu.
D'accord. Bah oui, en fait, il y a de la réflexion parce que t'es parti, t'es revenu.
Ouais, voilà.
Voilà, ça s'est pas fait comme ça.
Ouais, ouais. Je voulais dire aussi parce que c'est vrai qu'on peut.
C'est dommage. Je sais pas si. On arrive à la fin.
Mais vite fait, parce que c'est vrai que j'ai eu de la famille musulmane, comme j'ai dit, j'étais influencée, j'ai les chrétiens. Mais c'est vrai que dans la famille chrétienne, j'ai jamais, ça m'a jamais attiré. C'est pour ça, voilà, il y a ça aussi.
Alors, ça s'explique pas, ces choses-là, ouais. C'est comme on le veut, hein, c'est bizarre. Ouais. Mais écoutez, c'est fini pour ce soir, quel dommage. Houda, tu reviens, hein. Ah avec ouais, t'es plaisir. Une bonne copilote, toi. Moi, j'adore. Hein.
Ah bah, j'ai adoré ton intervention.
C'est vrai.
J'ai adoré, mais là, je me dis.
Eh ben, écoute, reviens demain. On aura un super. Semaine, mais... Reviens demain. On aura un super sujet. J'ai besoin de toi. Ok.
Ah, avec plaisir.
À demain, ma chérie. Gros bisous. Demain, 23h. Et Mohamed, désolé, il est pas passé. Mohamed revient demain. Harold aussi revient. Vraiment, ouais, t'es un bon, toi aussi. Hein. Reviens. Méziane, t'es chez toi, toi. De toute façon, indélogeable.
Moi, et t'as, moi, je et t'as peux les pas clés. Revenir. Je sais, je peux pas revenir.
Ben toi, t'es là, tu dors là, et on te remet les clés. On voilà. Merci Anthony.
Merci, bonne nuit tout le monde, à demain.
Allez, sahas hurkum pour tout à l'heure, sahar mdan kum pour demain. Bon courage pour demain, et surtout hydratez-vous, buvez de l'eau, d'accord. À demain, je vous aime. Demain.
Retrouvez Confidence
tous les jours de 23h à 1h sur Beurre FM et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.